Pourquoi la petite Bethléem? Message de Noël. Noël devrait être une chose éminente. Ce message a été prêché le 14 décembre 1963 à Ramada Inn, Phoenix, Arizona. C'est bon d'être ici ce matin, et je crois que nous allons avoir un chant spécial. Frère Williams me disait, quelqu'un de son église a un chant spécial. Une sœur chante, remplis ma coupe Seigneur, note de l'éditeur. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, levons nos coupes, remplis-la Seigneur. C'est la seule fois où nous aurons l'occasion de demander ceci. Il arrivera un temps où nous serons de l'autre côté, et alors nous n'aurons plus cette occasion. Alors pendant que nous devons le faire, et dans notre bon sens, je pense à l'une des choses les plus sensibles que n'importe qui peut faire, pendant que Dieu nous donne l'occasion de le faire, c'est de faire remplir nos coupes maintenant de son amour et de sa miséricorde. Il y en a un qui était avec nous il y a longtemps, et il n'y a pas tellement longtemps non plus. Et il est passé son chemin, et c'est un grand chagrin dans nos cœurs pour frère Williams. C'est frère Williams, notre président ici, son père. Quel âge avait votre père, frère Williams? 88. Ce serait environ 10 ans, je suppose, de passer, 18 ans de passer par rapport au temps promis. Un homme vraiment galant. Cela ne fait pas tellement longtemps depuis qu'il était assis là dans la réunion et je lui ai dit, sans tenir compte de frère William, j'ai dit, vous avez l'air plus jeune que votre fils Karl. Tout cela pour vous montrer que nous sommes ici aujourd'hui et demain nous ne sommes plus là. Nous ne savons pas quand vient ce temps, quand cela arrive, mais nous savons que cela arrive. Je pensais que la vie est une grande chose, mais la vie est aussi une grande occasion. Nous venons d'avoir une grande tragédie de quelqu'un qui venait à notre église à Chicago, qui fut tué l'autre jour en arrivant ou rentrant à la maison. Son mari conduisait et dans le Kansas, Missouri, une tempête est passée. L'homme conduisait, son auto fut hors de contrôle et le cou de la dame fut brisé instantanément. Nous ne pouvons pas savoir quand cela arrive. Ils m'ont appelé pour m'en parler, et j'ai appelé tous les enfants autour du pays pour le leur dire. Comme de raison, étant leur pasteur, j'étais désigné pour les informer. Et en pensant comment rapidement nous pouvons partir. Et ensuite, il y avait là une boîte de bonbons devant moi, qu'elle m'avait confectionnée la semaine précédente, et elle me l'avait donnée. Voyez comment rapidement nous pouvons être enlevés. Mais si cette vie était seulement l'endroit où nous avions nos espérances, nous serions un peuple misérable. Job a dit dans le 14e chapitre de son livre, « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts !» Avez-vous déjà remarqué comment la nature témoigne de Dieu? Nous remarquons les arbres. Les feuilles laissent les arbres, la vie dans l'arbre retourne la terre comme la tombe. Et reste là jusqu'à ce que la colère de l'hiver soit passée. Et ensuite cela revient, ramenant une nouvelle vie. Et c'est un témoignage que nous vivrons de nouveau. Le soleil du matin se lève comme un petit bébé, il est tout faible. Et après quelque temps, il est à l'école. L'école secondaire, puis à midi, il est dans sa pleine force. Ensuite, l'après-midi, il commence à tourner de l'autre côté, et ensuite, dans la soirée, il devient faible à nouveau, et il meurt. Mais ce n'est pas la fin du soleil. Il remonte encore le lendemain matin pour témoigner à une autre génération qu'il y a une vie, une mort, un ensevelissement et une résurrection. Même la nature partout parle de lui. Et la nature est un grand témoignage d'une autre manière. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir cette vie de résurrection à moins qu'elle ne serve au but de Dieu. Maintenant, si une semence est plantée et que cette semence est germée, elle apporte une nouvelle fleur. Mais si elle ne germe pas, elle n'apportera pas de nouvelles fleurs. Si elle ne sert pas au dessein de Dieu. Tout de même, elle ne se lève pas seulement parce que c'est une fleur, mais parce qu'elle sert au dessein de Dieu. C'est la raison pour laquelle le soleil se lève. C'est parce qu'il sert au dessein de Dieu. Et nous nous lèverons quand nous servirons au dessein de Dieu. Je crois que frère Williams a servi au but de Dieu dans la vie. Un vrai père. Et je vois sa chère compagne, Madame Williams, assise ici. Un père, un des desseins de Dieu. Et il était germé à Dieu par le Saint-Esprit, le dessein principal de Dieu. Alors, de dire que frère Williams ne se lèvera pas et ne pourrait être de nouveau avec nous, il faudrait dire qu'il n'y a pas de... que la sève ne descend pas, qu'il n'y a pas de lever du soleil. Mais tout parle de sa résurrection à nouveau et qu'il sera à nouveau avec nous tous. Premièrement, le soleil, les fleurs, la nature, la vie botanique, tout en parle. Et aussi, la parole de Dieu parle pour lui. Et hors de cela, la réelle foi qui est dans notre cœur palpite que nous le verrons de nouveau. Que Dieu donne du repos à son âme. Juste un petit hommage pour lui qui était auparavant assis avec nous. Levons-nous sur nos pieds juste pour un moment. Père céleste, nous n'avons jamais essayé de faire qu'une réunion comme celle-ci ait pour but seulement d'être vue ou entendue. Nous nous sommes rassemblés chaque fois pour l'édification de son Fils Jésus-Christ et pour témoigner à ceux qui sont sans lui afin de le trouver. Nous sommes, nos cœurs sont lourds pour ceux qui doivent rester en arrière après le départ de notre frère, l'un de ceux qui était assis avec nous. Il n'y a pas longtemps, il s'est assis souvent dans cette même salle. Mais nous croyons que tu l'as laissé vivre une bonne vie, bien remplie, et que son âme est avec toi aujourd'hui. Donne-lui du repos, Dieu, jusqu'à ce jour où nous le verrons de nouveau. Bénis son fils ici, ses autres enfants, sa chère femme et ceux qu'il aimait, et c'est nous tous, Père. Et nous remarquons ceci, que nous sommes très fragiles. Nous devrons partir un jour, alors préparons-nous pour cette grandeur. Et s'il y en a ici ce matin qui ne sont pas préparés pour ce même événement, que ce soit aujourd'hui qu'ils disent oui au Seigneur Jésus, et qu'ils soient aussi germés à lui par le Saint-Esprit, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Maintenant, nous avons quelques annonces à faire. Ce matin, ma femme, assise là en arrière, j'ai dit, chérie, je ne serai pas au déjeuner. Nous devions aller au village et faire certaines choses, et j'ai dit, je serai sorti vers 10 heures. Elle me regarda, et j'ai dit, Si je ne suis pas sorti à 10 heures de l'église, je t'achèterai 3 nouvelles robes à ton choix. Alors je sais ce qui va m'arriver. Je lui dois déjà 3 robes, car il est déjà 10h20. Mais j'essaierai d'aller le plus vite possible. Nous sommes contents d'être ici à Jéricho avec nos frères ce matin. Et nous vous invitons lundi soir à Jérusalem, à Tucson, au banquet là-bas. Voyez-vous, Phoenix est dans la vallée. Comme Jéricho et Tucson où je vis est sur la montagne, c'est Jérusalem. Où êtes-vous, Tony? Pourquoi ne dites-vous pas amen ici? Ah, voici, je suis dans un piège maintenant. Tony n'est même pas venu. Eh bien, demain ou lundi soir, c'est le banquet à Tucson. Et nous serions certainement contents si vous êtes alentour, si vous voulez bien venir vous joindre à nous et nous rendre visite. Mon sujet... ce soir-là, Dieu voulant, nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus l'adorer. Et le 19 du mois, ou le mois prochain, plutôt le 19 janvier, je vais commencer un réveil ici, dans cette salle de Ramada Inn, ici, et le 19, 20, 21. Et ensuite le 22, je crois que cela commence le 23. J'ai 4 soirs ici, comme un réveil. Plusieurs de vous, frères ministres, Nous sommes certainement heureux de vous avoir avec nous ce matin et nous vous invitons cordialement à porter et emmener vos gens, spécialement ceux que vous connaissez ici dans la ville qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Et ensuite, deuxièmement, ceux qui sont malades et croient que Dieu répond à la prière. Nous avons l'intention de prier pour les malades pendant ce temps juste avant la grande convention nationale qui doit avoir lieu ici, commençant le 22. Je suis certain que vous voulez entendre cela parce qu'il y a plusieurs prédicateurs renommés qui viendront et je suis sûr que vous aurez du bon temps. Maintenant, ce matin, je pensais parler à cette assemblée à laquelle Phoenix a toujours été une place sur mon cœur. J'aime Phoenix. J'étais ici quand j'étais un petit garçon, ici à Wickenburg, juste un peu plus haut. Et je demeurais au coin de la rue 16e et de Henshaw. C'était un désert alors. Mais je sais que c'est juste maintenant une ville métropolitaine. Et c'est tout à fait au cœur de la ville. Cela nous montre que les temps changent et changent. Mais il y a une chose dont je veux parler ce matin. C'est de celui qui ne change pas. C'est Dieu. Dieu dans son programme, sa parole, elle ne change jamais. Les temps changent, les hommes changent, les systèmes changent, mais Dieu ne change pas. Il demeure toujours le même. Et je pensais, étant donné que nous envisageons le temps de Noël, que je prendrais ou parlerais sur un message à Noël. Et maintenant, si vous avez vos Bibles et que vous voulez lire, parfois les gens veulent cela, ou suivre les évangélistes ou le prédicateur, alors je veux lire l'évangile de saint Matthieu, le 2e chapitre, pour une partie de la parole. Matthieu 2, versets 1 à 6. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde, car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, « À Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui pètera mon peuple, Israël. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et maintenant, avec des notes que j'ai ici et des écritures comme référence, je voudrais toute votre attention pour quelque temps sur le sujet « Pourquoi ?» La petite Bethléem. Vous savez, à Noël, je crois que tous, trop d'entre nous, je ne dirais pas tous, mais trop d'entre nous, nous perdons la vraie valeur de ce qu'est Noël. Et comme je remarque ici, même les palmiers sont décorés. Et dans l'Est, c'est toujours le sapin ou le pin. Et des mois ou des semaines, plutôt, peut-être un mois ou 6 semaines, avant que Noël ne commence, c'est toujours le grand, ils ont commercialisé cela au lieu de ce que cela représente vraiment. Je ne crois pas que Christ soit né le 25 décembre. Je ne crois pas cela du tout. Ce serait impossible pour que les choses arrivent ainsi. Les collines de Judée sont toutes enneigées. La neige est haute jusqu'à la taille dans le mois de décembre en Judée. Mais nous réalisons, en étudiant l'histoire, que Christ est probablement né au printemps, environ avril ou mai, dans ses alentours. Mais quand ce fut changé, ils l'ont apporté, quand le christianisme fut converti au romanisme, ils en ont fait la fête du Dieu Soleil, qui était le solaire, le 25, du 21 au 25 décembre, le soleil couchant, alors qu'il ne change presque pas. Et ensuite, c'est la fête du Dieu Soleil. Alors ils l'ont changé au Fils de Dieu. Mais rappelez-vous, peu importe le jour que cela est, nous n'enlevons quand même pas le caractère sacré de ce que ce doit être. Où Satan nous a volé ceci, et il en a fait une grande affaire commerciale, et le Père Noël a volé toute l'adoration. Et cela est devenu un jour comme Pâques pour les lapins et les petits canards roses. Et ensuite, qu'est-ce que cela a à voir avec Pâques? Où est-ce que cela, qu'est-ce que cela a à faire avec la résurrection de Christ? C'est tout à fait comme le monde aujourd'hui. Les enfants dans la rue peuvent vous raconter plus sur Davy Crockett qu'ils ne le pourraient de Jésus-Christ. Ils peuvent vous raconter plus sur un bandit, un criminel des jours passés, qu'ils ne le peuvent du prince de la vie qui est né il y a 1900 ans passés. Mais cela n'enlève pas la vraie chose de nous chrétiens. Voyez-vous, la lumière brille toujours le plus dans les ténèbres. L'éclair zigzague dans les nuées noires du ciel le soir. Cela montre qu'il peut y avoir une lumière dans les ténèbres. Et quand la lumière brille, vous ne voyez pas. Si le soleil brille, vous n'avez pas besoin tellement des lumières. Mais plus sombre cela est, plus petite que soit la lumière, plus elle brillera dans les ténèbres. Le plus sombre que cela est, elle se montre encore mieux. Et c'est plus ou moins que nous, chrétiens, nous devrions témoigner de la gloire de Dieu qui nous donna son Fils. Ce Noël devrait être une chose étonnante et éminente. Nous, chrétiens, nous devrions, peu importe l'apparence, cela la fera briller davantage. Tout le monde a du clinquant, mais nous avons Christ. Et c'est ce que nous devrions laisser briller dans cette heure sombre dans laquelle nous vivons. Nous pensons comment Dieu fait les choses d'une manière inhabituelle et rare. Dieu est déconcertant. Il est le surnaturel, l'infini pour nous qui sommes limités. Alors tout ce qu'il fait est rare ou inhabituel. Et Dieu est si grand jusqu'à ce qu'il prenne les choses non identifiées de la terre pour s'identifier au travers d'elles. Et nous remarquons ici dans mon sujet, pourquoi la petite Bethléem, la plus petite de toute la Judée, des princes des autres villes de Judée, pourquoi Dieu a-t-il choisi d'envoyer son Fils dans cet endroit? C'est cela donc que nous voulons parler. Dieu prenant les choses du monde. Je crois que les Écritures disent, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de choisir les choses qui ne sont pas. Ce que nous appelons grand, Dieu appelle cela folie. Ce que nous louons tant, Dieu dit que ce n'est pas bon. Et ce que nous pensons n'être pas bon, Dieu le glorifie. Je pensais alors que juste avant la naissance de notre Seigneur, quand tous les prophètes et ainsi de suite avaient parlé du précurseur qui arrivait, comment chaque montagne s'abaisserait, les endroits qui étaient bas seraient élevés, les montagnes sauteraient comme des béliers et les feuilles taperaient dans leurs mains. Et c'était un ministre, un prophète du nom de Jean qui est sorti du désert, pas d'une école théologique, la barbe partout sur son visage, vêtu d'un morceau de peau de mouton, pas des vêtements sacerdotaux. Il est sorti et il annonça « Le royaume de Dieu est proche !» Et les gens ne pouvaient quasiment rien comprendre d'un tel habit avec lequel il venait, aucune identification d'aucun autre système. Il n'appartenait à aucun système, il n'avait aucune carte d'affiliation, aucune dénomination ne le commanditait. Le message était trop grand, il ne pouvait pas prendre l'homme. Dieu lui enseigna cela dans le désert. Son message n'était pas fait avec des termes théologiques. Il a parlé de serpents, de haches, d'arbres, et c'était ce à quoi il était habitué, la nature, surveillant comment elle travaillait. Et c'est de cette manière qu'il s'approchait, pas comme un homme du clergé, mais comme un homme de la nature. Et les gens ne pouvaient rien y comprendre, ils n'avaient même pas de pupitre. Ils n'étaient probablement pas bienvenus à aucun pupitre, à aucune chaire. Mais il prêcha sur les rives du Jourdain, probablement debout dans la boue, jusqu'aux genoux. Mais les gens venaient l'entendre, ceux qui étaient sincères dans leur cœur. Ils voulaient l'entendre. Car c'était quelque chose de différent. Cela avait un son de vérité. Aujourd'hui, nous devrions être attentifs à ceci, à l'approche de la naissance du Christ. Notre message, il devrait y avoir un son de vérité qui donnerait la soif aux gens pour le trouver. Et Dieu a pris ce simple homme, sans éducation, même pas un jour à l'école. Et malgré cela, il a dit qu'il était le plus grand parmi tous les prophètes qui ont vécu, parce que Dieu s'est identifié avec les choses qui ne sont pas. Quand Jésus a choisi ses disciples, c'était ainsi. Il y avait beaucoup d'hommes mieux qualifiés pour cette œuvre que ses disciples. Il y avait des ecclésiastiques. Il n'en a pas appelé un seul. Dans ces jours-là, il y avait des ecclésiastiques, des prêtres, des hommes éduqués, des hommes renommés. Mais il ne les a jamais appelés. Il a choisi des pêcheurs et des collecteurs de taxes et ainsi de suite pour envoyer son message. Et il fait toujours cela. Dans les jours de Noé, il a choisi un agriculteur, juste un fermier commun pour annoncer le message de cet âge. Juste un fermier commun, pas un ecclésiastique, juste un agriculteur. Dans les jours de Noé, il a pris un... Pardonnez-moi. Dans les jours de Moïse, il a pris un esclave fugitif, non pas un ecclésiastique, et il le laissa partir jusqu'à ce qu'il soit satisfait là-bas derrière, au fond du désert. Il le libéra de son éducation, il lui apparut dans le buisson ardent, et il l'envoya avec un bâton crochu à la main pour prendre possession d'une nation qui l'avait fait fuir de là. Voyez-vous, Dieu prend les choses simples pour s'identifier à travers elles. Voyez-vous, prenant juste sa parole, il a créé le monde des choses qui n'existaient pas. Il y a quelques jours, j'étais au Maurice Auditorium, à l'une de nos grandes campagnes à New York, et j'entendais une leçon sur Einstein qui parlait de la galaxie et qui disait que cela prenait 150 millions d'années-lumière pour s'y rendre et 150 millions d'années pour revenir. Et alors pensez-y, 150 millions d'années-lumière, ce serait 300 millions d'années-lumière aller-retour. Et ensuite, quand vous reviendriez ici, vous seriez parti seulement pour 50 ans. Pensez-y. Comme la lumière voyage rapidement, 186 000 milles par minute, et pensez combien de billions et de trillions d'années cela prendrait pour aller là-bas et revenir. 300 millions d'années-lumière. Et cela, c'est juste à une galaxie dans la constellation que Dieu a seulement soufflé de ses mains. Et ensuite, il a fait les milliers d'années de temps en années-lumière au-delà de cela et regardant en bas sur elle. Ensuite, ce Russe a dit qu'il était environ 150 ou 200 000 dans les airs et il dit qu'il n'a jamais vu Dieu ou ses anges. Mais comment simple l'homme peut-il devenir? Ensuite, pensez à tous ces billions et ces trillions d'années et seulement 50 années d'ici, qu'a-t-il fait? Il est tombé dans l'éternité. Ils disent que cet astronaute qui venait de monter était monté tellement d'heures, il était tellement allé 17 fois autour du monde ou quelque chose comme cela. Ils ont dit que cela n'a jamais, ce n'était pas une seconde dans sa vie. Il voyageait avec le temps. Alors voyez-vous, vous tombez dans l'éternité. C'est la grandeur de Dieu. Nos pensées ne peuvent pas sonder combien il est grand. Et quand il se prépare à se révéler, il fait cela dans la simplicité. Cela prend des choses simples pour le faire. La simplicité des choses. David, il semblait être le... De tous les fils de Jessé, il était le dernier qui fut emmené devant le prophète. Même ses propres gens riaient de lui. Ils ne pouvaient pas imaginer un petit David à l'air rougeau, avec les épaules tombantes, un homme qui avait l'air fragile. Il ne pouvait pas le prendre pour être l'homme qui deviendrait le roi d'Israël. Il n'avait peut-être pas l'air d'un roi aux yeux de ces gens. Mais il en avait sûrement l'air aux yeux de Dieu, car il l'a oint roi de toute façon. Voyez-vous, il a pris le plus simple de la famille de Jessé pour être roi. Quelque chose que le monde avait rejeté. Il s'est tourné ou l'a renvoyé pour prendre soin des moutons. Il a emmené son premier fils, un grand homme à l'air majestueux. Il pouvait probablement se tenir debout et il avait l'air d'un roi d'Israël. C'est celui qu'il croyait qui aurait l'air bien avec une couronne sur la tête. C'est celui qui, il porterait le vêtement royal et il pourrait tenir le bâton et tout ce qu'un roi doit faire. Il avait l'air bien aux yeux des gens. Mais le prophète, avec l'huile pour oint dans sa main, a dit, n'en avez-vous pas un autre? Et il les conduisit un par un, jusqu'à ce qu'ils disent, n'en avez-vous pas encore un autre? Il dit, oh, j'en ai bien un, mais peut-être qu'il ne serait rien du tout. Il est un petit homme plutôt renfermé, nous l'avons juste envoyé pour paître les brebis. Il dit, allez le chercher. Et aussitôt qu'il arriva sous les yeux du prophète oint, il versa de l'huile sur sa main, sur sa tête, et immédiatement il dit, c'est celui-là que Dieu a choisi. Voyez-vous? Voyez, ce n'est pas toujours le clinquant du monde, c'est le choix de Dieu. Et par grâce, il nous a choisis. Alors nous sommes reconnaissants pour cela ce matin. Et cela ne prend pas ces grandes choses étincelantes du monde. Le plus humble peut être un serviteur de Christ. Cela prend quelqu'un qui le veut. Dieu l'a oint, voyez-vous cela? Cela prend les petites choses. Maintenant, pourquoi a-t-il pris la petite Bethléem? Il semblerait qu'il y avait de plus grands endroits où le roi, le grand roi, aurait pu naître. Habituellement, lorsque nous préparons un événement ici sur la terre, nous essayons d'obtenir le plus élevé, la chose la plus étincelante que nous pouvons penser. Nous amenons cela dans les plus grands endroits, nous dépensons le plus d'argent et les choses les mieux élaborées. C'est comme cela que l'on fait. Mais Dieu ne le fait pas de cette manière. Il prend quelque chose qui n'est rien, afin de se montrer et d'être puissant comme il peut. S'il avait pris un grand prêtre ou un homme bien éduqué dans les jours où il appelait les apôtres, s'il avait pris cela au lieu d'un ignorant, des pécheurs non éduqués qui ne pouvaient même pas signer leur nom, ils auraient pu dire, « Oh, voyez, votre éducation vous payera. » Mais Dieu a pris un homme qui ne pouvait même pas écrire son nom, afin de prendre quelque chose dans ses mains, quelque chose qu'il pourrait mouler et en faire quelqu'un afin de montrer qu'il est Dieu. Et quand nous arrivons à un endroit où nous réalisons que nous ne sommes rien, alors nous sommes dans la main de Dieu. Et il peut nous mouler et nous faire de la manière qu'il nous veut. Mais aussi longtemps que nous nous sentons importants, alors vous n'arriverez jamais nulle part. Vous ne pouvez même pas arriver dans la main de Dieu jusqu'à ce que nous réalisions que nous ne sommes pas importants. L'une de mes petites filles me demandait l'autre jour au sujet de l'importance. J'ai dit, bien, en parlant d'un homme important, c'est le président Kennedy qui venait d'être assassiné, et nos cœurs étaient peinés à cause de cela. Et j'ai dit, eh bien, il était un homme important, les journaux en ont parlé, la télévision l'a montré, cela a coûté au gouvernement des billions et des billions de dollars pour diffuser tout cela. C'est correct, c'est leur affaire. Mais j'ai dit, ce petit prédicateur pentecôtiste là en Caroline, un homme est entré ivre, avec un fusil, il a appelé sa femme, il a tiré sur l'homme à la chair, et ensuite il a tiré sur sa femme, et il s'est tiré sur lui-même. Seulement un tout petit article, tout petit, à la dernière page du journal. Laissez-moi vous dire, frère, peu importe qui vous êtes, vous voulez savoir combien vous êtes important? J'ai dit à ma petite fille, mets ton doigt dans un seau d'eau, et retire-le, et essaye de trouver le trou. Nous ne sommes rien. Il y en a un qui est important, et c'est Dieu. Nous devons nous le rappeler, c'est lui. Cela peut ressembler, s'ils veulent, l'homme cherchait un endroit pour le roi afin qu'il naisse. Il y avait plus de grands endroits religieux et des places historiques pour le roi que la petite Bethléem. Des endroits, par exemple, comme Shiloh. Shiloh était l'endroit où l'arche qui, premièrement, avait été érigée, nous savons comment. Nous traversons le Jourdain de ce côté en Palestine où l'arche fut érigée pour sa première place d'adoration. Ou Gilgal, Sion un grand endroit. Gilgal aussi, où la grande capitale fière, Jérusalem, où s'assemblent les têtes de toutes les organisations. On aurait pu penser qu'ils auraient préparé une place là-haut à Jérusalem pour que le grand roi naisse, s'il voulait, à un endroit historique ou une place remarquable. C'était le quartier général religieux de leur religion à laquelle le roi venait. Et il vint pour représenter leur religion. Et quand il l'a fait, au lieu de lui préparer une place à Jérusalem, ou l'un de ses grands endroits historiques, il est né à Bethléem, la plus petite de toutes les villes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, n'est certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et cette grande Jérusalem fière et toutes ces autres villes furent rejetées. Ou peut-être aurait-il pu prendre un de ces endroits de refuge, un grand droit comme Hébron, Kadesh, Ramoth, Gilead, une de ces grandes cités de refuge, parce qu'il devait être notre refuge. Si nous essayons de le fixer dans nos propres pensées, nous aurions pu prendre, disons, « Eh bien maintenant, si ce grand roi vient, qui sera notre refuge, il devrait naître dans l'une de ces grandes places mémoriales de refuge, comme Ramoth, Gilead ou Kadesh, ou l'une d'entre elles. » Nous l'aurions fixé comme ceci dans nos pensées. Mais voyez-vous, Dieu a d'autres manières de faire les choses. Il sait comment bien faire les choses. Et maintenant, par la pensée de Dieu, et avec l'aide de Dieu, nous saurons de Dieu pourquoi cela arriva. Parce que tout marche exactement bien dans le grand programme de Dieu. Et je veux que vous ici, à Phoenix et alentour, essayez de comprendre ceci. Rappelez-vous que Dieu sait ce qu'il fait. Voyez-vous? Il prend les moyens simples pour le faire. Parce que s'il fait quelque chose par une chose remarquable, alors Dieu ne fait jamais les choses comme cela. Il ne l'a jamais fait dans toute l'histoire de la Bible. Dieu n'a jamais en aucun temps pris un groupe de gens pour faire quelque chose. Dieu prend un individu. C'est vous, une personne. Et Dieu ne change jamais son programme. Parce qu'il doit toujours demeurer avec son premier programme. Et dans les jours de Noé, il y avait un homme, Noé. Au jour où il a sorti Israël, il avait un homme, Moïse. Nous savons que Dathan et plusieurs autres ont essayé de penser, eh bien, qu'ils avaient la même autorité, et ainsi de suite. Vous savez ce qui leur arriva. Et au jour de la venue du Seigneur, au jour de Jean-Baptiste et les autres, il a un individu avec lequel il œuvre. Et il traite avec nous aujourd'hui en tant qu'individu, pas en tant que groupe. Une personne. Cela dépendra de vous et moi, comment nous nous tiendrons devant Dieu. Parce qu'il traite avec vous et moi. Comme individu, pas comme avec un groupe auquel nous appartenons, et pas comme avec la dénomination à laquelle nous appartenons, mais vous et moi comme individu. Maintenant, Josué, en divisant la terre, donna cette petite parcelle à Juda. Plusieurs de vous, j'ai écrit des endroits ici où cela est situé, mais nous sommes tous conscients de cela, où cela est situé, dans quel coin. Mais c'était juste un tout petit endroit qui fut donné. Josué, en divisant la terre, l'a donnée à la tribu de Juda. Et maintenant, lorsqu'Israël traverse le fleuve du Jourdain, maintenant essayez de comprendre ceci. Quand Israël a traversé dans les terres, la terre promise, il y avait une femme des gentils que l'on connaît, Rahab la prostituée. Elle demanda pour la miséricorde et elle a reçu la miséricorde. Elle reçut de la miséricorde aussi longtemps qu'elle resta sous ce fil cramoisi. Et c'est de la seule manière qu'elle pouvait obtenir miséricorde. C'était un signe, un gage qui lui fut donné. Nous avons un signe aujourd'hui, aussi. Et nous sommes en sécurité aussi longtemps que l'on reste sous le fil cramoisi, le sang de Jésus-Christ. En tant qu'individu, pas comme groupe, en tant qu'individu, nous devons tous rester sous le fil cramoisi du sang de Jésus-Christ. Et ensuite, cette Rahab, après qu'elle fut épargnée, elle conduisit tous ces gens avec elle. Tout ce qui était sous le fil était sauvé. Cela est pareil. Lorsque Dieu fit quelque chose en Égypte, alors tous ceux qui étaient sous le sang étaient sauvés. Tout ce qui était sous le fil cramoisi était sauvé. Et tout ce qui est sous le sang de Jésus-Christ est sauvé. Tout ce qui n'est pas dessous est perdu, est prêt à la destruction. Et nous découvrons maintenant en faisant ceci. Ensuite, nous comprenons par l'histoire qu'elle avait courtisé un général dans l'armée d'Israël. Je ne sais plus son nom maintenant. Elle a finalement marié cet homme. Et ils se sont installés ici, près de ce petit endroit. Et son fils Salomon est celui qui a fondé Bethléem. Voyez, une femme des gentils est en rapport avec cela pour commencer. Une femme des gentils, Rahab la prostituée. Maintenant, nous découvrons que que Salomon a fondé cette petite ville de Bethléem, et il engendra Boaz, et Boaz est celui qui maria Ruth, une autre femme des gentils. Et nous suivons cette lignée maintenant. Ruth a eu, elle était une Moabite, et elle a marié Boaz, et elle arriva dans cette petite ville, juste au temps de la moisson de l'orge. Oh, si nous avions le temps ce matin, jusqu'au temps où je devrais six robes à ma femme à cause de cela. Mais comment demeurer sur ce sujet? Naomi, qui représentait l'église orthodoxe, était partie à cause de la famine. Elle est allée dans le pays de Moab, comme le dispersement d'Israël parmi les nations. Et ensuite, alors qu'elle revint, elle ramena Ruth la Moabite, elle retourna à la saison de l'orge, juste à temps pour la cueillette de la première orge. C'est l'église des gentils qui vient à Dieu, juste à la saison de l'orge à nouveau. Quel magnifique portrait! Et ensuite, étant mariées, elle et Boaz, et leur fameux fils Obed, qui fut engendré là et aussi né. Et ensuite, son fils, son grand-fils, etc., arrière-petit-fils, Jessé est venu d'Obed. Et ensuite, il engendra aussi David, son fils, le roi David est sorti. Regardez ce qui arrive maintenant. De Rahab, la prostituée, son fils qui l'a fondée, et de cela vient Boaz, qui en a une autre femme des gentils, ensuite de Boaz vint Jessé, et ici, de Jessé est né David. Et David, ici, à cette même petite Bethléem, était oint par le prophète de Dieu pour être roi d'Israël. Toutes ces choses spirituelles furent cachées aux yeux du monde. Elles arrivèrent ici, dans cette petite ville de Bethléem. Voyez, c'est comme cela que Dieu fait les choses. Maintenant, j'ai confiance que le Saint-Esprit sera présent maintenant pour vous donner la compréhension correcte que Dieu n'œuvre pas dans ces grandes choses. C'est par l'Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, dit le Seigneur des armées. Voyez-vous ? Dieu œuvre dans l'esprit parmi les gens. Voyez ces grands arrière-plans. Ils pouvaient seulement venir dans cette ville. C'est le seul endroit où ils pouvaient naître. Dieu suivant sa même ligne. Dieu fait toujours cela. Dieu suit la ligne de sa parole. Il ne peut pas revenir sur sa parole en aucun cas et ensuite demeurer Dieu. Il doit rester avec sa parole. Il ne peut jamais laisser cela. Aujourd'hui, nos traditions et ainsi de suite nous éloignent de la parole. Nous avons des credos et des choses qui sont injectées dans la parole, qui polluent toute la chose. Mais Dieu ne peut jamais laisser la ligne de sa parole. Sa parole est vraie, toujours, parce qu'il est la parole. Dieu est sa parole, c'est le même. Maintenant, nous voyons ici comment la petite Bethléem, même pas remarquée, un petit endroit pas trop remarqué par le monde extérieur. Juste la plus petite des cités, personne n'y faisait attention. Mais Dieu avait dans son but que ce serait là où toutes ces choses arriveraient. Maintenant, l'esprit spirituel pourrait recevoir cela, parce que le prophète a dit ici, voyez-vous, le prophète a dit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Le prophète, l'esprit d'un prophète l'a trouvé. Surveillez ces gens spirituels. Aujourd'hui, le Saint-Esprit conduit ces choses. Peu importe ce que dit le monde, dans tout son clinquant, surveillez le Saint-Esprit dans la parole. Voilà où cela vient. Qu'en pensez-vous quand Job mourut et spécifia son lieu d'ensevelissement? Et Abraham arriva, Abraham acheta la parcelle de terre pour ensevelir sa femme Sarah. Et Abraham, quand il est mort, voulait être enterré avec Sarah. Abraham engendra Isaac. Isaac, quand il fut mort, voulait être enterré avec Abraham. Isaac engendra Jacob. Jacob est mort au fond de l'Égypte. Mais il a fait Joseph, son fils prophète, il l'a fait jurer par lui avec sa main, sur sa hanche boiteuse, qu'il ne l'enterrerait pas en Égypte. Pourquoi? Il a dit, faites-moi monter dans le pays, et là, laissez-moi être enseveli. Et quand Joseph est mort en Égypte, cela, il a mentionné le départ et Israël sortant selon la prophétie, mais il dit, vous ferez remonter mes os loin d'ici. Pourquoi? Il savait que les premiers fruits de la résurrection viendraient de ce pays. Parce que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ils savaient tous que les premiers fruits de la résurrection sortaient de la terre promise, pas de l'Égypte. Ils étaient spirituels, ils étaient des prophètes. Et quand Jésus mourut le vendredi saint et qu'il ressuscita le matin de Pâques, le dimanche matin suivant, la Bible dit que plusieurs des saints qui dormaient dans la poussière de la terre se levèrent, ils sortirent de leur tombeau, ils entrèrent dans la ville et ils sont montés dans la gloire avec lui. Pourquoi ? C'était ces prophètes qui savaient exactement où être enterrés à cet endroit et en ce temps. C'était caché aux yeux des sages. Mais ils savaient quoi? Ils regardaient le côté spirituel. Les premiers fruits de la résurrection devaient sortir de Palestine, non pas de l'Égypte. Ainsi en est-il aujourd'hui, mes amis. Tellement de gens se tiennent après les choses du monde ou quelques grands systèmes ou autres. Ensevelissez-moi en Jésus, car ce sont ceux qui sont en Christ que Dieu emmènera avec lui dans la résurrection. Et je ne me soucie pas de ce que le monde dit et comment ils essayent de faire étinceler les choses. C'est en Christ, ce sont ceux qui sont en Christ que Dieu emmènera avec lui. Et l'esprit spirituel comprend ces choses spirituelles. Et ici le prophète a dit, « Petit Bethléem, n'es-tu pas la moindre entre les principales villes de Juda, mais de toi sortira un chef, pas de ces grandes capitales à style moderne, pas de ces terres historiques d'une église, ou quelque chose, ou des méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, ou quoi que ce soit d'autre qui a commencé, mais de la moindre de ceux-ci, d'un petit endroit insignifiant, je susciterai cet endroit, mon gouverneur pour les gens. » Mais aujourd'hui, nous voulons dire, notre Père a fait ceci, et nos pères ont fait cela. Voyez-vous, Dieu ignore tout cela. Dieu fait ce qu'il veut. Surveillez la ligne de l'Esprit. Surveillez comment se lisent les Écritures. Ils ignoraient cela. Mais voyez-vous, les Écritures sont vraies. Dieu a raison, toujours. Et David était oint par ce grand prophète, afin d'être roi. Aucun doute que Samuel, ce grand prophète, savait ces choses auparavant. Et c'était que sa grande semence spirituelle promise, car Dieu a juré par serment qu'il ressusciterait Christ pour qu'il s'assoie sur le trône de David. Alors, hors de cela, où aurait-il pu naître? Voici, son père naît, son grand-père, son arrière-grand-père, arrière, 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 loin en arrière, voyez? Son peuple, dans la ligne des gentils, furent emmenés. Et la Bible dit que dans son nom, les gentils se confieront. Voyez-vous? Cela doit toujours être apporté de façon à ce que vous le voyez. Nous voudrions y rester un peu et demeurer sur cela et vous montrer pourquoi les gentils. Mais je suis sûr que l'esprit spirituel l'a reçu tout de suite. Parce que, étant les mères et pas le père, maintenant, parce que c'était une femme, l'épouse, les gentils seront formés, l'épouse sera formée des gentils, les gentils, il prendra un peuple parmi les gentils à cause de son nom. C'est son nom. Il a pris une femme venant des nations, voyez-vous? Et c'est comme cela que ce devait être. La femme entre l'Église, elle. Ils étaient des gentils, les grands-mères dans la lignée de la semence. Maintenant, tout comme Isaac est dans la lignée de la semence, autrement, maintenant remarquez ceci. Nous remarquons que David avait cette promesse d'un fils. Et maintenant nous remarquons, comme cela est parallèle encore avec Israël, quand Israël, ou Abraham, fut promis que sa semence, ce que serait sa semence, et que de cette semence sortirait ce grand sauveur, et qu'il serait père de toutes les nations. Sa semence naturelle, comme de raison, était Isaac, mais cela a failli. Mais sa semence spirituelle, par la foi qu'il avait, c'était le Christ qui fit entrer toutes les nations. Bien, alors la même chose est parallèle encore ici. La semence naturelle de David était Salomon, et il rétrograda tout à fait comme l'autre semence d'Abraham l'avait fait. Il rétrograda. Salomon rétrograda aussi. Il a eu trop de femmes. Et la première chose que l'on sut, elles ont éloigné son cœur loin de Dieu. Il alla son chemin et il rétrograda. Et il mourut de cette manière. Il rétrograda. Israël mourut de la même manière. Ils ont rétrogradé. Mais nous remarquons que cette semence spirituelle qui fut promise par la semence naturelle comme une lignée de gens venant d'Abraham, pour la royauté, il vint par la promesse spirituelle de David. Et David est à Bethléem. Et il fut loin à Bethléem. Et nous remarquons que lorsque sa vraie semence royale, héritière de son trône, est née dans cette même ville, la petite Bethléem, ce n'est certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Dans cette petite ville, une petite étable, de la ville, en bas sur le côté de la montagne, il y avait comme des cavernes en bas de la montagne, et on entrait là par de petites portes. Le prince de paix, né dans une étable, dans une espèce de petite boîte ou botte de paille, assis quelque part, le fumier empilé dans les granges, ainsi de suite. Mais au travers de tout cela, arriva le grand prince, la semence de la femme, de la vin le sauveur du monde, de la vin Jéhovah lui-même, dans la forme d'un homme. Il vint d'une humble petite étable à Bethléem, pas dans un palais de roi, né dans la royauté, mais il vint de cet humble endroit, dans un tas de fumier, là-dedans, enveloppé de l'ange. Et comme dit la tradition, on prit un couple de bœufs avec lequel il labourait pour l'entourer. Pauvres gens, Joseph et Marie, tous les deux très pauvres, et les voici dans cette petite étable. Comme Dieu se rend humble. Et ensuite, nous essayons de nous rendre quelque chose de grand. Ne pouvez-vous donc pas voir comment Dieu s'humilie lui-même, prend les choses qui ne sont pas, afin de rendre manifestes ses grandes promesses, comme ce petit Jéhovah, couché dans l'étable, enveloppé dans l'étoffe, pris du dos d'un joug, du cou d'un joug où les bœufs étaient, et ils ont enveloppé le prince de paix dans celle-ci. Oh, qui sommes-nous alors? Que méritons-nous? Si Dieu peut s'humilier comme cela, ne pourrions-nous pas nous humilier afin de devenir ses serviteurs, s'il a fait les choses comme cela? Ne pouvons-nous pas oublier nos grandes dignités et les choses de ce monde, nous éloigner de cela, nous humilier devant lui dans ce Noël? Et être un, montrons-lui nos appréciations de cette naissance et de cette humilité, en nous humiliant nous-mêmes et en recevant sa parole. Peu importe ce que la tradition dit, c'est sa parole qui compte. C'est ce qu'il prend, sa parole et seulement elle. Maintenant, nous découvrons dans cette petite étable que c'était là que le premier Noël fut chanté sur la terre et ce fut chanté par des anges. Pensez-y, le premier Noël, non pas chanté là-haut avec Caïphe, non pas dans une grande église où il y avait un grand pasteur, mais à une étable de Bethléem, la moindre de toutes. Mais le premier Noël fut chanté par des êtres angéliques dans la petite ville de Bethléem. Voyez-vous ce que je veux dire? Peu importe combien vous êtes pauvre, combien petit ou insignifiant vous pouvez être, Dieu peut se servir de vous si vous pouvez seulement le laisser faire. Dieu vous veut, il ne veut pas que vous. Vous n'êtes pas obligé d'appartenir à une grande société, à un grand ordre, à une grande fraternité ou quoi que ce soit. Cela ne veut rien dire pour Dieu. Dieu vous veut. Et si vous êtes, si vous pensez que vous êtes grand, faites sortir ce sentiment de vous. Vous devez vous en débarrasser. Vous dites, oh bien, j'ai un doctorat en philosophie, un doctorat en théologie. Cela vous éloigne toujours davantage de Dieu. Oubliez cela. Revenez à Dieu. Revenez à l'humilité de l'esprit. Et aimez Dieu et prenez sa parole. Et si vous demeurez en moi et ma parole en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela s'accomplira pour vous. Dieu l'a promis. Vous direz à cette montagne, enlève-toi, et si vous ne doutez pas dans votre cœur et croyez que ce que vous avez dit s'accomplira, vous pouvez avoir ce que vous dites. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et plus grandes que celles-ci, car je m'en vais à mon Père. Quelle promesse! Il y a quelque chose qui manque quelque part. Ce que nous essayons de faire, c'est de le tordre, et d'en faire une grande chose là-haut, de mettre des fleurs, du clinquant par-dessus, et nous le polluons comme les nations entières l'ont fait pour Noël, c'est vrai. Si nous pouvions enlever le scintillant des choses et ramener l'humilité dans le cœur des êtres humains, si nous pouvions ramener l'humilité à Noël, afin qu'il soit ce qu'il devrait être. Non pas un jour commercial, pas des lumières et des Pères Noël, mais revenons à l'adoration de notre Dieu, de la création, qui est venu dans une étable, qui est né comme un bébé, Dieu fait chair, et il habita parmi nous. Si nous pouvions revenir à cela et nous éloigner des choses scintillantes et des grandes choses dont Dieu ne s'occupe pas du tout. Vous dites, « Oh, j'appartiens à la plus grande dénomination. » Cela vous éloigne davantage de Dieu. Vous dites, « Je fais ceci et cela. » Cela vous éloigne encore davantage plus loin. Vous devez vous humilier vous-même jusqu'à ce que vous voyez cela, jusqu'à ce que, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Ce que nous essayons de faire, aussitôt que Dieu nous donne une petite pluie de bénédiction, nous tordons tout cela, nous allons chercher des dignitaires dans cela, qui se feront de grands noms, qui feront la compétition à d'autres. Celui-ci commence de cette manière-ci, et cette manière-là, et Dieu laisse toute la chose. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une effusion fraîche du Saint-Esprit sur les cœurs qui sont humbles. Nous avons besoin d'un vrai Noël. Un endroit de naissance. Si vous pouviez réaliser que vous n'êtes qu'une étable, Dieu n'est pas allé à Jérusalem, à Shiloh, à Ramoth, Gilead, il est venu à une étable qui était polluée. Et quand vous laissez agir Dieu et devenez et réalisez en vous-même que vous n'êtes qu'une étable puante, mais bienvenue, ouvrez vos portes. Alors que ces grands endroits et ces autels lui tournent le dos, ouvrez les portes de l'étable de votre cœur. Et laissez Jéhovah entrer dans cela et regardez ce qui se produira, car il est la parole. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il est la parole. Laissez-le entrer en vous et regardez ce qui se produira. Ensuite, demandez ce que vous voudrez et cela s'accomplira pour vous. Oui, c'était là que le premier Noël fut chanté par des anges, il y a plusieurs années. Et quand il... Un frère parle en langue, quelqu'un donne l'interprétation, noble éditeur. Amen. Maintenant nous savons que le message doit être très important, que Dieu voulait dire cela, sinon il n'aurait pas interrompu le message pour faire quelque chose comme cela. Humiliez-vous sous les mains de Dieu, c'était le message. Maintenant, Père Céleste, nous savons que tu es toute la sagesse et que tu fais tout parfaitement. Nous prions que tu accordes maintenant que ceci soit un message pour le peuple, afin qu'il s'humilie vraiment chacun de nous, que nous venions sous la main du Dieu Tout-Puissant. Nous nous consacrons à toi, Père, afin que tu nous accordes tout cela dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Maintenant, pour continuer, je parlais, lorsque le premier Noël fut chanté, il fut chanté par les anges à la petite Bethléem. Voilà où tous ces grands hommes sont nés. Voilà où la promesse d'un roi est née. Le roi promis est venu là. Maintenant, la parole, hâtons-nous maintenant. Je ne veux pas vous tenir trop longtemps. La promesse était ceci. Le mot Bethléem. Disséquons-le. J'ai sauté quelques notes ici afin de gagner du temps. Maintenant, Bethléem. Le mot B-E-T-H veut dire maison. E-L veut dire Dieu en hébreu. E-L-H-E-M, c'est pain. Bethléem, la maison du pain de Dieu. C'est ce que veut dire ce mot. Des mots et des noms, ils ont des significations. Plusieurs gens ne croient pas cela, mais c'est vrai. Si les noms n'ont pas de signification, pourquoi le nom d'Abraham devait-il être changé en Abraham? Pourquoi Saraï devait-il être changé en Sarah? Pourquoi Saul devait-il être changé en Paul? Pourquoi Simon devait-il être changé en Pierre? Voyez-vous, ils ont tous des significations. Tous ont des significations. Et le nom Bethléem veut dire la maison du pain de Dieu. Oh, maintenant, comme cela convient à Jésus, le pain de la vie éternelle. Christ est le pain de vie. Nous croyons tous cela, n'est-ce pas? Comme cela convenait à Bethléem. Le pain du centre du monde, c'était le pain du centre de la vie éternelle. C'est pour cela que le roi devait naître là. Il dit dans Saint Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. mais ce pain, si un homme mange ce pain, il vivra éternellement. Alors Jésus est le pain de vie. Alors le pain de vie devait venir à Bethléem. Il est notre pain de vie pour le voyage, comme Israël. Dieu a donné à Israël le pain du ciel pour leur voyage. Alors qu'ils séjournaient, alors qu'ils voyageaient, ils avaient quitté l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et le soir, il y avait une pluie de pain qui tombait du ciel. Et Dieu nous a donné le pain de vie pour notre voyage, comme à Bethléem, la maison du pain de Dieu. Voyez, comment cela devait-il être? Cela devait être là où ce nom est appelé Bethléem, la maison du pain de Dieu. Alors, comment aurait-il pu naître à Jérusalem? Comment aurait-il pu naître à Ramoth-Gilead? Voyez-vous, il vint là où était son nom, la maison du pain de Dieu. Oh, remarquez, Israël recevait un nouveau pain frais chaque soir qui venait du ciel pour leur voyage. Christ est notre vie, le pain de vie, et chaque jour nous recevons une fraîcheur de Christ venant du ciel, le Saint-Esprit qui descend sur le croyant chaque jour. Frais, l'expérience d'hier, plusieurs de nous vivront sur l'expérience d'hier, mais nous ne devons pas faire cela. C'est l'expérience d'aujourd'hui. C'est ce qui ne va pas avec nos dénominations. Ils vivent d'après l'expérience de John Wesley, d'après l'expérience de Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvin, plusieurs des gens du passé. Ils vivent d'après cette expérience. Mais rappelez-vous, le pain qui tomba, ils essayèrent de le garder, il devint contaminé. Les asticots l'ont pénétré, les citernes contaminées, vivant sur le pain du passé qui est contaminé. Nous devons avoir quelque chose de frais de Christ. Sa parole, aujourd'hui, pour cette heure, voyez-vous, il est notre fraîcheur, notre pain qui tombe chaque jour du ciel sur le croyant. Il est notre Bethléem. Il devint la vie éternelle de la maison de Dieu. Il est le pain de vie. Il est notre Bethléem. Christ est notre Bethléem. Le pain naturel est appelé le pain vital. Nous appelons le pain naturel comme notre pain léger et toutes sortes que nous avons. Cela s'appelle le pain vital. Jésus est le pain vital de Dieu, un pain de vitalité pour la vie éternelle. Comme le pain vital est appelé du pain, Jésus étant le pain de vie et le pain vital de Dieu, le pain de la vie éternelle pour nous. Voyez-vous cela? Nous ne pouvons pas aller, quelque chose doit mourir pour que nous puissions manger. Le matin, quand vous mangez de la substance morte. Si quelque chose ne meurt pas, alors vous ne pouvez pas vivre. Car vous vivez seulement par une substance morte. Si vous mangez de la viande, le cochon mourut. Vous mangez du porc, le cochon est mort comme de raison. Et si vous mangez du bœuf, la vache est morte. Vous dites, oh, mais je ne mange que du pain. Alors le blé est mort. Oh, j'ai mangé des légumes verts. Les légumes verts sont morts. Vous vivez seulement par une substance morte. Et c'est de la seule manière que vous puissiez vivre. Et si vous pouvez seulement vivre naturellement par une substance morte, quelque chose devait mourir afin que vous viviez naturellement, alors combien plus il devait y avoir quelque chose qui meurt afin que vous viviez éternellement. Christ est mort afin que nous vivions éternellement. Et il devint la maison du pain éternel de Dieu que nous attrapons tout frais à chaque heure du jour qui vient de Dieu, sortant du ciel, dans la forme du Saint-Esprit qui nourrit nos âmes affamées, tout en étant assis dans les lieux célestes. Il est notre Bethléem. Alors tous les vrais fils de Dieu croyants sont nés en Bethléem avec lui. Si Christ devait devenir le pain de vie pour naître à Bethléem, qui est la maison du pain de vie, alors chaque vrai croyant Christ qui est né en Christ sont nés dans la Bethléem de Dieu. Amen. Alors seulement, lorsque Jésus est né à Bethléem, je suis né à Bethléem, vous êtes né à Bethléem. Comment avez-vous fait cela? Ici même, à Phoenix, Arizona, ce matin, à la Ramada Inn, vous pouvez naître de nouveau dans la Bethléem de Dieu, la maison du pain de vie de Dieu. Mangez-le et vivez éternellement. Pourquoi la petite Bethléem? C'est aujourd'hui, pourquoi un groupe de saints comédiens ou de bigots? Pourquoi ceci, cela ou autre? Les gens ne savent pas de quoi il s'agit, mais l'Esprit le révèle, la parole le montre. C'est la manifestation de la parole de Dieu. Nous avons la vie par Christ et lui seul. Nos organisations, nos dénominations, nos différences nous éloignent seulement de Dieu. Nous n'avons qu'un accès à Dieu et c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin par lequel on puisse venir si ce n'est lui. Aucun prêtre, aucun prédicateur, aucun système ou par rien d'autre. Seulement Jésus-Christ et lui crucifié. Il est le pain de vie de Dieu et nous sommes nés en lui. Et s'il est le pain de vie de Dieu, alors il est Bethléem. Et étant nés en Christ, nous sommes alors nés de Dieu en Bethléem, en Christ Jésus, assis ensemble dans les lieux célestes, nourris de lui, mangeant de lui. Qui est-il? Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et lorsque nous pouvons nous asseoir avec un objectif, la parole de Dieu, nous nous nourrissons de cela. Nous sommes la Bethléem spirituelle de Dieu. Et nos âmes, ponctuant chaque parole qu'il a dite avec un « Amen », nous régalons de cette nourriture céleste d'ange. Quand il a dit « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru », les credos ou les dénominations disent « Oh, ce n'est pas vrai ». Mais le vrai homme qui est né en Bethléem dit « Amen ». Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les dénominations disent « C'est un groupe de gens émotionnels ». Mais celui qui demeure vraiment à Bethléem dit « Amen ». Parce qu'il est satisfait, c'est de la nourriture d'ange. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Oh, les hautains et les sages, les avisés ne le verront jamais. Nous tenons tellement aux traditions de nos anciens, tellement que nous devons porter des cartes d'affiliation et toutes ces choses pour aller derrière une chaire. Mais pas eux. Vous pouvez aller derrière le pupitre de Dieu en vous humiliant. Entrez dans la maison du pain de vie, Jésus-Christ, et vivez éternellement dans sa présence, étant élevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous régalons de sa parole. C'est la Bethléem de Dieu. Combien de nous sommes en lui ce matin? Combien sont-ils consentants d'oublier leur credo qui n'est pas d'accord avec la parole? Pourquoi n'avons-nous pas un réveil? Pourquoi n'avons-nous pas ces choses qui se passent? Qu'est-ce qui arrive avec la Pentecôte? Elle s'organisa, c'est cela, vous ne pouvez pas organiser la Pentecôte, vous ne pouvez pas en faire une organisation, mais la Pentecôte est une bénédiction, c'est la puissance de Dieu, et si c'est une véritable Pentecôte, alors il ne se détournera jamais de la parole pour prendre un credo, il prendra la parole, c'est vrai. Parce qu'il est circoncis du monde et des choses du monde. Il est assis seulement sur la parole de Dieu et il y croit. Nous sommes en Bethléem, candidats pour le royaume de Dieu. Nous mangeons le pain de vie éternelle de Dieu. Né, le pain de Dieu, né en Bethléem pour devenir le pain de vie spirituelle de la vie éternelle dans la maison de Dieu. Oh! Né à Bethléem, nous le sommes ce matin, lorsque nous sommes nés en Jésus-Christ, car il est la Bethléem de Dieu. Jésus est la maison du pain de vie éternelle de Dieu. Il est aussi notre eau pour le voyage. Maintenant nous savons qu'il est notre eau, comme Israël dans leur voyage. Soit ils fendirent un rocher et leur pain descendait du ciel, mais un rocher fut frappé afin qu'ils puissent boire de lui, afin de les fortifier, de fortifier leur vie dans le voyage. Dieu a frappé un rocher, ou Moïse l'a fait, son prophète qui a frappé le rocher. Qu'est-ce que c'était? Ouvrez le rocher. Le rocher était Christ. Le croyez-vous? Très bien. Alors si le prophète ouvrit le rocher afin que la vie puisse en jaillir, alors si c'est le rocher aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit en signe qui frappera ce rocher. Amen. Et laissera jaillir la parole, parce qu'il est la parole. Nous avons omis les credos et de boire de ces eaux stagnantes des citernes, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une ouverture de la parole qui vit. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne peut pas se tromper. Ils peuvent appeler cela de la télépathie mentale, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ou des spirites, ou un démon. Pour autant que cette parole coule librement et produit exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, c'est une fontaine dans la maison de David, à nouveau, de retour à Bethléem, où est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, pour ceux qui demeurent à Bethléem. Vivez avec lui, vivez en lui, c'est une eau de vie pour le voyage, pour nous, comme cela fut pour Israël. Une des plus grandes expériences de David, si vous voulez le lire, dans 2 Samuel, chapitre 35, verset 15. En commençant par là, nous lisons ici que David, étant né en Bethléem, il devint un fugitif. Oh, quelle vision! Les Philistins étaient en garnison autour de Bethléem, et David, essayant de revenir à sa propre demeure, ne pouvait pas le faire. Il était dans le désert, parce qu'il était devenu un fugitif pour les gens, où ils étaient dehors. Quel magnifique portrait de Christ aujourd'hui! Un fugitif, c'est ce qu'il est. Maintenant vous dites, oh, il ne peut pas être cela. Bien, si vous croyez la Bible, c'est ce qu'il est. La Bible dit dans l'église de Laodicée que Christ était en dehors de l'église, frappant, essayant de rentrer à nouveau dans sa propre église. Un fugitif, c'est quelqu'un de refusé, de rejeté. Et la parole et le Saint-Esprit sont rejetés, c'est vrai. Vous ne pouvez y entrer. Et si jamais vous le recevez, vous devrez sortir de là pour le recevoir. Vous devez sortir pour le rencontrer. Il ne peut pas entrer. Ils sont si attachés à leur credo qu'ils ne vous laisseront pas prêcher ces choses. Ils ne vous laisseront même pas les croire. Ils disent, vous croyez qu'il est le même? Oh, d'une manière il est le même. Maintenant, cela ne peut pas vivre en Bethléem. Non, non. Cela, c'est boire aux eaux stagnantes ou en arrière. Manger du vieux pain contaminé qui tomba il y a plusieurs années. Qu'est-ce que tel et tel en a dit? Oh, ils avaient peut-être raison dans leur temps. C'est un autre temps. C'est le jour du Seigneur. C'est un autre âge d'église. Pas celui de Philadelphie. Aujourd'hui, c'est Laodicée. Il est rejeté et Christ est devenu un fugitif dans sa propre église. Poussé au dehors, il est un étranger. Il peut venir tout de suite et œuvrer parmi le peuple et faire les mêmes choses qu'il a faites ici, disant qu'il les ferait dans les derniers jours, donnant les mêmes signes et ces choses qu'il a dit qu'il ferait comme il en était au temps de Sodome. Nous savons ce qu'il a fait à l'église en ce temps-là. Et nous voyons Billy Graham comme cela a été auparavant. Et ses messagers sont descendus dans l'église dénominationnelle et prêchant bas là-bas, ils les appelèrent à sortir de là, leur disant de croire la parole et de sortir de Sodome. Mais le groupe d'Abraham n'était pas à Sodome. Ils étaient déjà appelés et sortis. Surveillez, l'ange, ce qu'il a fait là-haut pour eux. Un signe, afin qu'ils sachent. Et la même chose peut être faite, et les gens disent, « Oh bien, ne croyez pas cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de Christ un fugitif pour leur organisation. Ils sont tellement étrangers à cela, les pentecôtistes et tout le monde. » Maintenant, c'est exactement la vérité. Oh, je sais que cela est gratigne, mais écoutez, à quoi que ce soit qui ne... Si c'est la vérité, cela vous égratignera, et c'est vrai, ce doit être la vérité. Mais maintenant, surveillez David. Quand il était là-haut, David rêva de ses puissantes victoires. Il était dans une caverne restant derrière et loin, loin, environ 15 000 de la ville. Et il monta. Et il remarqua cela, sa ville bien-aimée, où il est né, et où il fut roi, ainsi de suite. Et ceux qui demeurent en Israël, en ces jours, c'était comme ceux qui demeurent aujourd'hui en Allemagne. Ils ont des petites villes, et ensuite ils vivent dans des villes pour la protection, et ensuite ils conduisent leurs moutons, et ils prennent leurs bagages dans la campagne, ils les nourrissent, et ensuite ils les ramènent de nouveau au village. Et le soir, ils les mettent dans des corrales. Et David, regardant sur la ville, commença à se rappeler des grands exploits que Dieu avait faits par lui, les grandes victoires que Dieu avait gagnées par lui. Comment un jour, pendant qu'il avait ses brebis avec lui là-haut sur les montagnes, dans les pâturages, où il était dormant là, près des verts pâturages, et ainsi de suite, un ours entra, et il prit un des petits agneaux, et il sortit. Et voilà, David courut après lui, et il tua l'ours. Dieu lui a donné la victoire, parce qu'il avait été chargé par son père pour prendre soin de ses brebis. C'était son travail de prendre soin des brebis. Ô pasteur, c'est là votre travail. Et il mange de la nourriture pour les brebis, pas de la nourriture d'almanach, la nourriture de brebis, la parole de Dieu. Et quelqu'un entra, et il en fit sortir une. Quelqu'un entra, en prit une, et la sortit, et il courut après cela. Un lion entra, en prit une, et il courut après lui. Il n'était pas satisfait tant qu'il ne l'avait pas trouvé. Cela lui donna la grande victoire un jour, quand il vit Israël entièrement rétrogradé. Voyez, Israël écoutait tous les credos et ces choses, ils avaient tout, ils allaient tous à l'église, ils avaient tous été circoncis, ils allaient tous chez le prêtre, ils recevaient leur bénédiction avant d'aller au combat. Mais, quand vint le moment critique du surnaturel, ils étaient tous, chacun d'eux, des lâches, parce qu'ils virent qu'il y avait de l'opposition. Et ils n'avaient pas d'audace, ils n'avaient pas ce qu'ils appellent aujourd'hui la à ce qu'appelle aujourd'hui la parole de la rue, ils n'avaient pas l'ambition. Quelque chose manquait. Ils ne pouvaient pas aller là-bas et envisager ce géant. Pourquoi? Mais ils étaient pourtant tous bénis par le prêtre. Ils avaient tous les saintes bénédictions sur eux. Ils s'étaient agenouillés, probablement qu'ils avaient été oints avec de l'eau bénite. Et quoi que ce soit, ils étaient tous là debout. Mais quand l'opposition a grandi, ils ne l'avaient pas. Maître Saül, le surveillant général, où l'évêque se tenait là, la tête et les épaules au-dessus de toute l'armée. Et il fit un défi. Goliath le fit, il dit, « Si je le tue, alors vous me servirez. Mais s'il me tue, alors nous vous servirons. » Mais l'opposition était trop grande. Il avait des doigts mesurant 14 pouces. Cela fait 28 pouces en travers de la main. Regardez quel genre de main il avait. Son aiguille de tisserand, comme l'épée qu'il avait. Et pensez combien grosse était sa tête. Elle devait être grosse comme une cuve. Et il y avait un casque, 1 à 2 pouces d'épais, en bronze qui était accroché sur sa tête. Regardez l'armure, des pièces d'armure comme des fenêtres de jalousie, où il pouvait prendre haleine et se mouvoir. C'est comme cela que fonctionnait son armure. Avec une grande côte de maille pendant sur lui, qui pesait peut-être 100 ou 200 livres de bronze pendant sur sa poitrine. Avec une aiguille, une lance dans sa main peut-être, 35 pieds de long. Oh, ce que l'ennemi peut faire lorsqu'il croit avoir le dessus sur vous. Ce qu'il pense qu'il peut faire. Comment il fera la gloire? Les jours des miracles sont passés. Vous ne pouvez pas passer avec de telles choses. Mais là vint un petit gars fragile qui n'avait pas d'expérience théologique. Mais il avait une expérience que Dieu demeurait toujours Dieu. Dieu garde toujours sa parole. Et le voici, il monta, et Saül dit, « Attends un petit peu, je te donnerai une licence en lettres. » Et lui mit son casque sur lui, et il descendit, et le casque l'écrasa presque. Il ne connaissait rien dans tout cela, il dit, « Je ne connais pas ce genre de choses. » Il dit, « Je n'en connais rien du tout, mais je sais une chose. Avez-vous peur de combattre ce géant? Vous vous tenez là, et vous vous appelez l'Église du Dieu vivant ?» Et vous laissez cet incirconcis se tenir devant vous et se glorifier autant que cela? Il dit, je vais aller le combattre. Oh, nous avons des hommes comme cela aujourd'hui. Des hommes qui ont eu une expérience. Et qu'a-t-il fait? Qu'a fait le petit David de Bethléem? Il alla là-bas pour combattre le géant. Et le géant le maudit au nom de ses dieux. Des dieux au pluriel. Il le maudit au nom de ses géants ou ses dieux, et ils sortirent de là et lui dit, « Aujourd'hui, je te prendrai par l'épée, je prendrai ta carcasse là-haut dans l'arbre, et je laisserai les oiseaux la manger. » Il dit, « Tu me rends compte comme un philistin, au nom d'un philistin, avec une armure et une lance. Mais moi, je viens à ta rencontre au nom du Seigneur Dieu d'Israël. » Qu'était-ce? La parole. Je te rencontrerai avec la parole. et il dit, aujourd'hui, je te couperai la tête de dessus les épaules. Et le géant commença à rire, et il courut après lui, mais David ne recula pas. Il courut après lui aussi. Il n'y avait qu'un petit endroit, et Dieu dirigea son rocher. David, couché là-haut comme un fugitif, pensait à cela, combien grande avait été la victoire. Ensuite, il a dû penser aux psaumes, comment parfois dans les montagnes, il s'étendait en méditation sur Dieu. Il a dit qu'il a lu ses commandements à la colonne de son lit, et à ses doigts et partout où il allait. J'ai toujours le Seigneur devant moi, toujours, et je ne serai point ébranlé. Il gardait Dieu devant lui, et les grandes victoires qu'il avait. Et quand il devint si inspiré, il était un psalmiste, il sautait, il prenait sa plume, et il écrivit les psaumes, et il les chanta, il entrait dans l'esprit, il dansait dans l'esprit. Oh, comme il devenait transporté dans l'esprit, qu'il dansait dans l'esprit en écrivant ses psaumes. Et il a dû arriver aux différents psaumes. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, le psaume 23. Il me dirige près des courants d'eau, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Et il pensa à toutes ces choses. Cela avait dû être une journée chaude, et il avait soif, il avait chaud, et il suait. Et il pouvait regarder là en bas dans la vallée, du haut de la montagne, qui était du côté est ou du côté ouest, ou est du côté est de la ville. Alors qu'il regardait en bas, et il vit où les Philistins, qui étaient tous là, des milliers en troupes tout autour. Et il a vu ce vieux puits où il avait déjà bu. Oh, il commença à penser un matin, alors qu'il prenait ses brebis et allait les nourrir. Il passait par ce vieux puits, parce que c'était un grand endroit d'eau. Et ensuite, il allait là, et il buvait de l'eau, et buvait, et il laissait boire ses brebis. Comment, là, Bethléem, où il abreuvait ses brebis. C'est exactement là où Dieu abreuve ses brebis encore aujourd'hui. Là derrière, à Bethléem, sa fraîche eau froide. Et il s'écria, « Si je pouvais seulement boire à ce puits de nouveau. » Je vais terminer maintenant, mais écoutez bien. « Si seulement je pouvais m'abreuver. » Au-dedans de lui-même, il s'écria, « Si je pouvais seulement boire une autre fois à ce puits de Bethléem. » Ses désirs étaient un commandement pour ceux qui l'aimaient. Rappelez-vous, son âme criait pour aller boire à cette eau. Et ceux qui l'aimaient, son plus petit désir était un commandement pour eux. On nous dit qu'un trois de ces hommes s'assemblèrent, de grands hommes. Un en a tué 800 par lui-même. Un autre avait sauté dans un fossé et avait tué un lion. Un autre avait pris un bâton et avait renversé l'épée de la main d'un Égyptien et l'avait transpercé avec sa propre épée. Et se tenant sur un champ de lentilles comme cela, il tua 300 hommes autour de lui. De grands hommes. Ils étaient des gens des nations. Regardez d'où ils viennent. David ici est un type de Christ. Bethléem, car le Christ est le fils de David. Ici, alors qu'il se tient là, pleurant, pour aller boire de cette eau, et son désir était un commandement, je l'ai déjà dit pour ceux qui l'aimaient. Et trois de ces hommes tirèrent leurs épées et tuèrent 15 000 hommes là-bas dans cette ville. Tandis que d'autres se battaient, gardant, ces hommes étaient de vaillants guerriers, des Philistins, certains d'entre eux deux fois la taille des autres. Mais ils étaient de vaillants hommes qui pouvaient se battre. L'un d'eux abattit, se tenant seul, tuant 800 hommes tout autour de lui en un jour. Ils étaient de grands hommes. Ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient foi dans leur conducteur. Et ils se frayèrent un chemin au travers. Tandis que certains coupaient et cherchaient un seau d'eau, ils se frayèrent leur chemin au travers de 15 000 hommes. Et ils amenèrent cela pour David, afin qu'il puisse boire. Voici, Christ est représenté dans ceci, à la fois le roi et le guerrier, parce qu'il s'est frayé un chemin. Il a brisé les lignes de la mort de l'ennemi. Il a brisé les lignes de l'ennemi, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Les eaux de la vie éternelle. Il parvint jusqu'à la mort et il prit même la mort sur lui-même. Il mourut la mort et il revint afin que nous ayons la vie éternelle. Il est à la fois le roi et le guerrier. Il n'a pas à vaincre, il a déjà vaincu. Nous n'avons jamais vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour nous. Il est notre David en ce jour. Il a vaincu la mort. Le pain est l'eau de Bethléem. Bethléem était le centre. Vous, historiens, savez cela, que c'était le centre. C'était un grand pays de blé, de l'irrigation et de ces choses. Il pouvait avoir de grandes récoltes de blé. Et c'est aussi la meilleure eau. C'était le centre du pain et de l'eau de la Palestine. Et aujourd'hui, peu importe le nombre des organisations que nous avons, combien de soi-disant frères, et la manière que ce soit, encore Christ est la Bethléem du croyant. Il est l'endroit du pain et de l'eau. Méthodiste, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, baptiste, et vous, pentecôtiste, et tout le reste d'entre vous. C'est tout en un seul endroit. C'est Bethléem où le pain et l'eau de vie viennent. Oui, ici, il est notre pain, le pain et l'eau de Dieu pour nous. Il est le centre, le seul endroit que vous puissiez venir le chercher, c'est en lui. La maison de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, notre Bethléem, le pain et l'eau de la vie éternelle. Et il est la parole faite chair. Voici, la parole, le pain et l'eau de vie. Hébreux 13, verset 8 déclare, il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela fait de lui notre Bethléem, notre endroit de pain et d'eau, le seul endroit de la vie éternelle. Et remarquez David, en allant chercher les eaux. Oh, il n'a jamais bu, il a Dieu, loin de là, ceci est le sang de ces hommes qui ont risqué leur vie pour sortir et lui apporter ce breuvage. Regardez, il l'a versé à terre pour une offrande de boisson à Dieu. Amen. Hommes et frères, élevez votre foi juste un moment maintenant. Il a refusé de le boire lui-même. Il l'a versé sous la terre comme une offrande de boisson à Dieu. Comme cela s'identifie bien à Jean 3, verset 16. Alors que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, le prince de la vie, est venu ici. Il n'avait pas besoin de mourir. Il a vaincu la mort lui-même. Et il versa le sang de sa propre vie sur la terre. Amen. Et ceci comme une offrande pour nos péchés. Il est notre rocher frappé, son précieux sang donné de Dieu, répandu sur la terre. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre soir dans un message, disant qu'il alla, je crois que c'était Billy Graham, hier soir. J'ai regardé et il dit qu'il alla en Israël et il entra en Palestine et il dit, « Je viens pour croire vos gens » ou quelque chose de ce genre. Et je l'ai certainement admiré comme il apparaissait dans ce programme mondain hier soir. Plusieurs de vous ont tourné le dos à l'homme à cause de cela. Mais regardez bien, il apparut alors devant toute la nation et il ne l'a jamais repris. Il s'est appuyé exactement sur ce qu'il croyait et je l'admire certainement pour cela. Et il a dit, « Je suis allé en Israël et je leur ai dit, « J'aime l'un de vos enfants » ou d'autres mots comme ceci. Où j'adore l'un de vos enfants. Et j'ai pensé au Billy, comme c'est merveilleux. J'aimerais voir cette puissance donnée par Dieu que vous avez pour vous tenir là au milieu de tout ce charme d'Hollywood et de donner un témoignage au sujet de Jésus-Christ. Mais il n'était pas un juif. Jésus était Dieu, pas un juif. Rappelez-vous, la cellule de sang vient du sexe mâle et il n'était pas un homme juif ou gentil. Il était Dieu créé dans la chair. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif ou par le sang d'un gentil. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Il était Dieu, rien de moins. Il n'était ni juif ni gentil. Le sang créatif de Dieu en lui, nous devenons. S'il était un juif ou un gentil, nous sommes tous perdus. Il était Dieu en chair, c'est vrai. Je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une certaine fiction ou quelque chose d'historique. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ, tout de suite, qui est sa parole, qui est manifestée dans cet âge. Dieu, à chaque âge, a accordé sa parole, dès le commencement. Et chaque fois, dans un âge où il passait, Dieu a envoyé un prophète loin pour cet âge. Dans les jours de Noé, dans les jours de tous les autres, il a fait les promesses. Je ne me soucie pas dans quelles conditions l'Église s'est placée. Il fait toujours cela. Il envoie un homme loin, car la parole de Dieu vient au prophète. Et ici, il se tenait là, chaque prophète, et il fut condamné par les organisations de ce jour. Mais il se tenait sur la parole et il faisait vivre la parole. Jésus était la plénitude de la parole de Dieu, car il était la plénitude de la divinité corporellement, et en lui habitait la plénitude de Dieu. Dieu vivait en Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas un juif, ni un gentil, mais Dieu, il se tenait là, se faisant lui-même. Oh, comme cela convient! Et le propre sang de Dieu devait être versé sur la terre, du sang innocent d'Abel et par la suite pour nous racheter. Il n'a pas pris sa propre vie, il a dit, « Père, est-il possible d'éloigner cette coupe loin de moi ? Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. » Il s'abandonna à la parole. Aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. Vous pouvez soit prendre vos credos, prendre vos ceci et vos cela, et aller où vous voudrez avec cela. Mais vous pouvez aussi dire, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Revenez à cette parole de Dieu. Prenez votre clinquant et votre Noël, et faites-en ce que vous voulez. Mais donnez-moi Jésus-Christ dans mon cœur. Peu importe le nombre de gens qui riront de cela, je m'en moque. Surveillez sa nature. Voyez si cela fait comme il a fait. Si cela ne le fait pas, et si cela ne peut pas être comparé avec cette parole, laissez-le tranquille, ce n'est pas Christ, parce que Christ est la parole. Maintenant, nous découvrons combien cela convenait. Notre rocher frappé, sa vie de sang versée répandue sur la terre, une offrande pour les péchés du pécheur. Notre Bethléem, l'eau, le pain et la vie, offerts pour nettoyer des pécheurs impurs. Ô mon ami pécheur, comment pouvez-vous refuser si follement une telle offrande quand Dieu a donné son Fils unique, une offrande pour le péché, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comment venir en lui? Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans une Bethléem, la parole de Dieu qui est Christ manifesté pour cet âge. Et chaque promesse que la Bible donne pour cet âge, il attend qu'un prophète arrive sur la scène pour manifester cela. Il l'a promis selon Malachie 4. Cela sera fait. Peu importe combien les gens pensent follement, cela sera fait quand même. Dieu l'a dit. Il est capable de prendre ses pierres. Nos credos ne le recevront pas. Si nos églises ne le reçoivent pas, Dieu peut retourner à l'étable. Il peut aller où il veut. Mais il y aura quelqu'un qui tiendra ferme pour cette parole parlée pour ce jour. Quelque chose doit le manifester. Ce ne sera pas un groupe non plus. Cela ne le fut jamais. Ô fils, guerrier, alors que je termine, je ne veux pas vous garder trop longtemps. Je vais terminer maintenant, Dieu voulant. 11h-5, ou moins 6 plutôt. Remarquez, ô fils guerrier, vous les hommes qui professez être des fils, savez-vous ce que David représentait? David représentait Christ. Christ était le fils de David. Maintenant, écoutez en terminant. Ces guerriers des nations, plusieurs d'entre eux, remarquez qu'ils viennent de partout, mais ils savaient que ce fugitif était loin. Ils savaient que David était rejeté par ses propres gens. Mais ils savaient que l'onction était sur lui. Ils le voyaient. Alors ils se tinrent de son côté pour mourir ou pour vivre. Ils étaient de vaillants hommes, peu importe si le monde extérieur ne le croyait pas. Ses propres gens l'avaient jeté dehors. Ils ne voulaient rien savoir de lui. Saül l'a éloigné. Les têtes des dénominations l'ont jeté dehors, en ne voulant rien avoir à faire avec lui. Le conseil l'a jeté dehors, et il devint un fugitif. Il devait aller où il puisse aller. Il était là, dans les montagnes. Mais il y avait un petit groupe d'hommes, des gens des nations, façonné de manière qu'il regardait cet homme et il savait qu'il était le roi qui vient. Ainsi en est-il aujourd'hui avec de vaillants soldats de la foi en cette parole, qui savent que cette parole promet que Jésus-Christ reviendra. Nous ne sommes pas intéressés dans des millions de dollars de ceci et des milliers de dollars de cela. Je suis intéressé dans le retour de Jésus-Christ. Ô fils de Dieu, guerrier, qu'est-ce que vous avez? Comment vous tenez-vous aujourd'hui? Quand nous voyons que la Bible prédit qu'il est un fugitif aujourd'hui, rejeté de son église, rejeté des organisations, et vous le savez, pas besoin de s'en cacher, c'est la vérité. La Bible a dit que ce serait ainsi. Sortez de cette marque de la bête. Regardez ces hommes, ils tirèrent leurs épées. Qu'était-ce? Son désir était de pouvoir boire de cette eau fraîche. David, quel type d'aujourd'hui, notre David, Christ. Nous savons qu'il fut appelé un fanatique ou un bigot, qu'il a été jeté d'or et mis de côté, un fanatique en toutes choses, rejeté par les églises. Ils ont leur credo, ils ont leurs choses relevées dans ce Noël, comme il en était au premier. Nous savons cela, mais nous savons que cette parole demeure toujours vraie et qu'elle doit s'accomplir. Et le désir de Christ est pour des hommes, des guerriers qui se tiennent à ses côtés. Amen. Oh, venez vous tenir de mon côté, vous qui vous tenez dans un endroit terrible. Je vous défie aujourd'hui, ces bandes vont au travers du monde. Je défie chaque homme, un guerrier qui aime Jésus-Christ. Ces guerriers qui savent que ces choses doivent s'accomplir aujourd'hui, frères. Voulez-vous venir tenir de mon côté et tirer avec la parole de Dieu? Oubliez ces citernes sèches et ces dénominations stagnantes dans lesquelles vous vivez. Tirez la parole de Dieu fraîche. Donnons à Jésus-Christ un bon breuvage d'eau fraîche de la Pentecôte. C'est son désir aujourd'hui, un retour à la Pentecôte originale, un retour à la parole. Cela est prophétisé qu'il en sera ainsi dans Malachie chapitre 4, pour ramener les enfants à la foi de leur père à nouveau. Qui veut se tenir là ce matin? Comme David, nous savons que David revient en puissance. Jésus-Christ va prendre le monde, il héritera la terre, il sera roi sur toute la terre. Il est rejeté aujourd'hui, il est un fugitif parmi son peuple. Bien sûr, il est un fugitif pour le monde, il l'a toujours été. Mais aujourd'hui, il est un fugitif pour sa propre église. Ils l'ont rejeté, ils aiment leur credo et leur grand dignitaire au lieu de la parole. Ils ne veulent pas le laisser se manifester. Ils ne permettent pas qu'il soit prêché dans sa puissance. Ils s'en sont séparés, tout comme la Bible l'a dit dans Apocalypse 17. Que font-ils? Ils viennent ici aujourd'hui et ils s'en vont tous dans le conseil des églises. Le catholicisme et le protestantisme qui s'unissent ensemble, formant la marque et l'image de la bête. Et les protestants qui gobent tout cela, et les pentecôtistes partout, leurs dignitaires qui vont à Rome, ceux de la Pentecôte, et ils reviennent disant l'endroit le plus spirituel. Et au Texas, partout ailleurs, ils s'ouvrent et ils s'expliquent à la radio et ainsi de suite, sachant que les credos ont été injectés dans cette parole. Ô vous qui demeurez à Bethléem, alléluia, j'appelle des hommes, des guerriers, des combattants qui n'ont pas peur. Cela ne me fait rien s'il y en a 800 debout sur un côté et 10 000 sur l'autre. Je veux des guerriers qui viendront avec moi et qui perceront un trou au travers de cette ligne de Philistins croyants que le Conseil mondial des Églises a attroupé autour de la parole de Dieu, essayant de faire des credos et d'en nourrir les gens. Il y a un puits, il y a une fontaine ouverte dans la maison de David. Bethléem, notre Sauveur, nous lave. Frère, le péché, c'est l'incrédulité en sa parole. Quel combattant peut-il voir le millénium arriver? Quel guerrier peut-il voir le glorieux Saint-Esprit venir dans la forme de Jésus-Christ, le corps littéral de Christ, pour prendre le contrôle à nouveau? Tenez-vous avec moi, tenez-vous près de moi, perçons une trouée au travers de ce credo dénominationnel. Entrons là-dedans. Il s'écrie pour avoir un bon breuvage d'eau fraîche de la Pentecôte originale. Pas un groupe qui s'excite et qui crie et qui se lamente, mais oui, je veux dire un réel baptême du Saint-Esprit qui produit la vie de Jésus-Christ à nouveau dans les gens. Pardonnez-moi si je vous blesse. Non, ne le faites même pas, car je dis ceci et je fais cela dans le nom du Seigneur Jésus. Revenez, tenez-vous, homme vaillant qui voit David se tenir au loin. Jésus-Christ, un fugitif pour son Église, mis à l'écart par leur credo. Il y a une fontaine fraîche qui se trouve là-bas. Amen. Il y a de la puissance pour faire vivre cette parole à nouveau. Cela est prophétisé et cela s'accomplira en ce jour. Dieu a dit que cela s'accomplira. Cela doit s'accomplir en ce jour. Dieu a dit que cela s'accomplirait. Cela doit s'accomplir. Vous ne le ferez jamais dans l'armée dans laquelle vous êtes maintenant. Vous vous êtes mis en garnison, vous les pentecôtistes, et tout autour avec le reste des organisations, et vous formez un credo. Oh, homme de Dieu, où est cette épée? Notre Seigneur désire une boisson fraîche. Peu importe si c'est la vie ou la mort, perçons au travers de cela. C'est si difficile de vous tenir vous-même. Mais j'appelle des hommes pour se tenir près de moi, restez avec la parole. Ce que dit cette parole, faites-le comme la parole le dit. Peu importe ce que les autres gens disent, restez-y de cette manière, car c'est la seule chose qui tranchera. Allons à Bethléem, la véritable eau de Dieu. Si un homme demeure en moi, et moi en lui, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demeurez. Non pas sauter d'endroit en endroit, de changer votre carte d'affiliation des unitaires pour croire en deux personnes, et aux trinitaires, revenir aux presbytériens, luthériens. Demeurez en moi, et il est la parole. Mes paroles demeureront en vous. N'ayez pas peur de 800 ou de 8 millions. Je serai de votre côté. Je désire boire à ce puits de nouveau. Dieu aura un peuple qui boira à ce puits. Alléluia! Vous pensez peut-être que je suis fou, et peut-être que je le suis. Alors je suis fou de Jésus-Christ et de sa parole. Et si je dois être traité de fou, laissez-moi être traité de fou pour sa parole. Je n'ai jamais été contre les hommes dans ces organisations. Je suis contre ce système qui ferme la porte à la parole de Dieu. Tranchons, combattants, et tenez-vous à ses côtés. Allons à ce puits, il est notre Bethléem. Ces vieilles citernes, le Conseil mondial des Églises qui s'organise maintenant, oh, restaurons la fraîche parole de Dieu, non pas une dénomination, ne prenons pas un credo, ce sont de vieilles eaux stagnantes qui sont tombées il y a 40 ans, il y a 20 ans ou 30 ans ou même l'an dernier. Je veux la parole de Dieu promise pour aujourd'hui. C'est la boisson qu'il veut que j'aie, cette parole d'aujourd'hui, c'est une petite Bethléem. Et c'est rejeté. C'est, je sais, c'est tout comme vous pensez, ô Simon. Oui, c'est vrai, il pensait qu'il devrait naître à Jérusalem. Il pensait qu'il aurait dû naître là où les grandes têtes de leur dénomination étaient. Mais il a contourné tout cela. Il vint dans le nom de Bethléem, car c'est ce qu'il était. Alléluia! Il ne vient pas par les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou les pentecôtistes. Il vient pour l'épouse, lui, Jésus-Christ. C'est pour eux qu'il vient. Cela semble peut-être étrange pour vous, mais croyez-le. Voyez, ces types ne viennent d'aucune autre manière que par la parole. C'est la seule place où ils pouvaient naître. C'est dans cette Bethléem. C'est pourquoi ce devait être cette petite place humble. C'est de la manière que cela doit être ce matin. Ce doit être de la même manière, par la parole promise. Oui, monsieur. Le conseil des églises des Philistins s'organise, et maintenant ils se mettent en garnison partout autour de votre Bethléem. Autour de ce Noël, ils se mettent en garnison partout. C'est partout entièrement décoré avec un clinquant du monde. Oh, nous amènerons la paix mondiale. Le pape Luther ou Jean ou quel que soit son nom, il rassemblera et tous ces grands évêques de l'église, le conseil uni des églises et le conseil mondial qui se réunissent ensemble. Mais comment deux peuvent-ils marcher ensemble à moins d'être d'accord? Amen! Il y en a qu'un avec lequel on puisse marcher, c'est Jésus-Christ. Comment pouvez-vous marcher avec lui quand vous êtes d'accord avec qui il est, la parole? Ne laissez jamais cela vous quitter. Cela ne me fait rien combien ils ont de clinquants. Tu dois faire ceci, si nous allons fermer l'église avec laquelle tu es. Peu importe ce qu'ils ferment, cela n'a rien à voir avec la parole. Oui, monsieur, où allez-vous? Exactement là où la parole a dit que vous alliez. Vous allez à reculons, tout vêtu de clinquants avec toutes sortes de promesses mondaines, mais cela est éloigné d'un million de milles de la parole. Le voici aujourd'hui, Noël encore, pour nous éloigner de la promesse de la parole. Mais elle s'accomplira. Dieu est capable, de ses pierres, de susciter des enfants à Abraham. Oh, essayons d'éloigner les vrais croyants, demeurant dans la vraie Bethléem, loin de la vie éternelle. C'est là leur but. Levez-vous, fils et combattants, retournons à notre Bethléem d'origine. Vous vous rappelez, lorsque David retourna à son trône, ses hommes se tenaient près de lui, car ils savaient qu'il allait au trône. Il savait que David devait aller au trône. Peu importe combien il était rejeté, il était le pire fugitif dans le pays. Et il en est ainsi de la parole de Dieu ce matin. Elle est étrangère aux organisations. Regardez ce qu'ils ont fait. Cela vous le montre juste devant vous. Et les gens essayent de dire, « Frère Branham, vous frappez l'Église. Je frappe les systèmes. L'Église est Jésus-Christ, non pas un système. » Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils font, et vous pouvez voir ce qu'ils font. Ils essayent d'éloigner les gens de cela. Ils sont en garnison de plus en plus autour de ce puits, afin d'être sûr que personne n'y boira. Mais ô guerrier de Dieu, je crois que Jésus-Christ viendra un jour dans la gloire. Je crois qu'il viendra et il s'assiera sur le trône de son père David. Bien qu'il soit un fugitif, sa parole, ce matin, rejetée par son propre peuple, comme David l'était. Les organisations ont empêché sa parole. Ils ont viré lorsque Dieu vient et confirme. Sa pure parole. Ne me dites pas autre chose. Pendant des années au travers du pays, et ils s'en éloignent de plus en plus, toujours. Je l'ai dit l'autre jour, à propos de Jacqueline Kennedy. Combien de fois ai-je dû réprimander les femmes qui se coupent les cheveux, qui mettent du maquillage, vous femmes pentecôtistes, qui vous coupez les cheveux. De vous, Dieu a dit que cela fait de vous une prostituée de la rue quand vous faites cela. Et selon Dieu, votre mari a le droit de désirer de ne plus vivre avec vous. Une femme qui coupe ses cheveux déshonore son chef qui est son mari. C'est exact. Et que disent-ils de cela? Et vous m'appelez à ce sujet. Je reçois des lettres. Vous, vieux détraqués, oh très bien. Ils ont dit la même chose à propos d'Élie. Ils ont appelé chaque parole de Dieu, chaque fois que la parole est accomplie, ils l'ont appelé comme cela. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Mais nous croyons que vous êtes un prophète. » Moi, je n'ai jamais dit cela. Je ne le dis pas. Je suis seulement un serviteur de Dieu, essayant de vous dire la vérité. C'est tout. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu supporte cela. Il est dit, « Les filles de Sion, la branche qui échappa en ce jour à toute cette contamination, ce sera glorieux aux yeux du Seigneur. » Tranchez au travers, femme. Vous avez un endroit pour couper au travers. L'Hollywood mondain, les spectacles, tous ces shows de télévision auxquelles, que vous essayez de suivre. Vous vous habillez sensuellement dans la rue. Et quelqu'un dira, « Mais les gens veulent que vous leur enseigniez comment recevoir le Saint-Esprit et comment recevoir... » Dire que vous avez le Saint-Esprit et ensuite nier sa parole. Votre propre vie prouve que vous ne l'avez pas. Voyez-vous? Maintenant, je ne suis pas fâché. Je vous dis seulement ce qui est la vérité. Regardez-vous et vous le découvrirez. Paul a dit, si un ange du ciel enseigne autre chose qu'il soit maudit. Galates 1, verset 8. C'est vrai. Et si Jacqueline Kennedy, elle a commencé toutes ses modes avec toutes ses... peinture et ces têtes d'eau et ces choses qu'ils ont, toutes ces robes sensuelles ou comme ces robes de maternité, ces choses, chaque femme du pays veut porter cela. Vous, femmes pentecôtistes aussi. Regardez Jacqueline Kennedy. Elle n'a jamais entendu un message comme cela. Si elle l'avait entendu, elle se serait peut-être repentie il y a longtemps. Mais vous, femmes pentecôtistes, vous l'entendez jour et nuit et d'année en année et vous n'en faites rien. Alléluia! Dieu va se lasser un de ces jours. Dieu va se lasser Bien, je sais que vous croyez que je suis fou. Allez-y, c'est tout à fait en ordre. Ils ont tous pensé cela au travers des âges, quand la parole. Voyez-vous, ô combattant, tirez cette épée, tenons ferme pour tout ce que cette épée représente. Allons à ce puits où il y a une fontaine remplie de sang tirée des veines d'Emmanuel. Pas un juif, les veines d'Emmanuel, Dieu avec nous, là où les pécheurs sont purgés sous cette aspersion, là où ils perdent toutes leurs tâches coupables. Et il viendra un chef qui sortira de Bethléem et qui règnera sur mon peuple. Le Saint-Esprit règne sur les gens aujourd'hui, et le Saint-Esprit est la parole. Est-ce vrai? Maintenant, en terminant avec respect, il dirige le peuple. Peu importe ce que vous pensez, supportez la parole. Si vous ne le faites pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Et vous, qui êtes identifié à votre propre témoignage, peu importe ce que vous dites, vous pouvez sauter de haut en bas, parler en langue, courir partout sur le plancher du bâtiment et avoir quand même les cheveux coupés et faire les choses que vous faites. Cela témoigne contre vous que ce n'est pas vrai. Mais vous qui demeurez à Bethléem, que Dieu vous bénisse. Passons au travers. Christ veut une vraie église. Il veut une épouse. Coupons notre chemin au travers. Sortez d'ici, débarrassez-vous de ces credos, afin que les vrais buveurs puissent revenir et boire une vraie eau fraîche de Pentecôte qui a déjà jailli de ce grand puits. Il coule toujours. Venez donc aujourd'hui, croyez cela de tout votre cœur, alors que nous allons incliner nos têtes juste un instant. J'ai plusieurs choses ici dont je devrais parler, mais le temps ne me le permettra pas. Il est 11 heures. Maintenant, je me demande combien de combattants ici, vous ministres, méthodistes, baptistes, presbytériens, prêtres catholiques, qui que vous soyez, êtes-vous convaincus? Je sais que je ne suis pas un ecclésiastique. Je suis peut-être sorti du désert et j'ai frappé ceci, cela et d'autres, mais ceci est la parole. Et vous croyez que c'est ainsi et vous croyez que c'est la parole. C'est la Bethléem. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole est ici, la Bible. L'homme vivra par cela, et il est cette parole. Ô combattant, voulez-vous tirer l'épée de Dieu et dire, j'en ai fini avec ces traditions, je reviens à la parole, je reviens à la vérité? Femme, homme, femme, n'avez-vous pas honte de vous-même, de la manière que vous agissez? Êtes-vous consentante? Ce matin, dans ce Noël, de revenir et de refléter le vrai Jésus-Christ. Maintenant, avec vos têtes inclinées et chaque œil fermé, voulez-vous lever votre main et dire, priez, frère Branham, vraiment, je veux faire cela dans mon cœur. Je le crois, que Dieu vous bénisse. Mes ministres, femmes partout, à Bethléem, Bethléem, l'endroit du pain et de l'eau de Dieu, Christ, notre glorieuse Bethléem. Comment venir en lui? 1 Corinthiens 15. Par un esprit, nous sommes tous baptisés dans le corps mystique de Jésus-Christ. Nous nous nourrissons de sa parole, pas d'autre chose. La nourriture pour brebis seulement. Cette parole, rien d'autre. Vous ne pouvez pas y ajouter des credos. Nous ne l'entendrons pas. Non, monsieur. Vous allez dire, oh, c'est comme ceci. Si la Bible dit que c'est comme ceci, c'est de la manière que nous le voulons. Nous ne le voulons pas du tout assaisonné. Nous le voulons tel qu'il est. Ô Dieu notre Père, aujourd'hui il reste des cœurs affamés sur la terre. Pourquoi la petite Bethléem? Dans ma manière pauvre, qui n'est pas éduquée, Seigneur, j'ai essayé avec ce petit groupe qui m'aime. Je sais qu'ils m'aiment, Seigneur. Et je les aime tellement que, Seigneur, je suis zélé pour eux. Je ne veux pas qu'ils soient mêlés dans ces choses et qu'ils soient retranchés lorsqu'il sera trop tard. Et voir ces pauvres âmes au loin en prison, et sachant que j'aurais eu l'occasion. Seigneur Dieu, aujourd'hui, peu importe ce que pense la grande Jérusalem, et ce que les Gileades, les Ramoth Gileades, et les autres Shiloh, et les grands endroits d'adoration, où qu'ils soient, il y a une Bethléem. N'es-tu pas la moindre d'entre elles? Mais de toi! Des méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques, la grande capitale et la grande Ramoth Gilead où Luther a combattu et les Shiloh, où est-ce l'a peut-être combattu et plusieurs autres endroits. Mais Seigneur, Seigneur, tu as élevé un groupe de la Pentecôte et ils ont tourné de bord et ils ont fait la même chose que les autres. Jésus de Nazareth, je te prie, Seigneur, de laisser sortir des guerriers de chacun de ces credos, qu'ils se lèvent en ton nom et qu'ils coupent au travers de tous ces credos et qu'ils retournent à la vérité, la parole non falsifiée. Laissant tout fardeau qui nous enveloppe si facilement, laissant de côté chaque heure où ils se promènent ridiculeusement pour faire des membres à une organisation. Seigneur Dieu, laisse-les revenir faire des convertis à Jésus-Christ. Pas pour glorifier aucune organisation ou aucune personne, mais Jésus-Christ, lui seul. C'était pour David que ces hommes combattaient. Ils ont mis leur vie en danger pour David. Et ces grands guerriers, puissants, sans crainte, ils ont tracé leur chemin parce que c'était son désir. C'était son désir d'avoir à boire de ce puits. Et Seigneur Dieu, peut-être ne sentons-nous pas ce tiraillement, mais regarde, c'est ton désir que ces choses soient faites. Comme tu as dit à Jean, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il est convenable pour nous, en tant que ministres aujourd'hui, de voir à ce que cette parole soit prêchée. Il est convenable pour nous, un homme dans ces heures dans lesquelles nous vivons, de grands hommes sur la terre aujourd'hui. Ô Dieu, ils sont là-bas, qu'ils puissent le voir et qu'ils prennent l'épée. Peu importe l'opposition, Dieu est pour vous, alors qui peut être contre vous? Cela ne fait rien de mettre notre vie sociale en danger. Cela ne fait rien de mettre cela, ceci ou autre en danger. Nous voulons recevoir l'eau de vie encore. Allons à Bethléem, Seigneur, que chacun d'eux y aille. Laisse toutes ces femmes qui sûrement, si elles ont levé leurs mains, elles avaient honte d'elles-mêmes. Laisse-les réaliser que ces hommes seront comme M. Kennedy l'un de ces jours. Ils seront comme le reste des hommes. Ils doivent mourir. Ces femmes meurent. Je meurs. Nous brûlons tous sur cette terre. Et nous savons qu'il y a un temps court. Il ne reste que quelques jours. Et Dieu, au lieu d'essayer de bâtir de grands systèmes, Seigneur, laisse les hommes et les femmes voir ce matin que cela est la venue du roi. Ô Dieu, la venue de ce grand roi, Jésus. Et nous réalisons, Dieu, que chacun de ces hommes qui tirèrent cette épée combattirent pour David quand il était fugitif, quand il vint dans la puissance, il les fit devenir gouverneurs sur les villes. Chacun d'eux avait des villes, et tu as promis dans la Bible que nous aurions des villes. Ô Dieu, comme les gens des nations devinrent héritiers, les gens des nations afin que nous puissions partager sa sainteté et sa justice. Laisse-nous aujourd'hui, Seigneur, en tant qu'hommes et combattants, prendre cette parole, sachant que ceux qui se tiennent pour lui dans cette heure, ils seront gouverneurs sur des villes. Pas que nous voulions être des gouverneurs, mais nous voulons être des serviteurs pour toi, Seigneur. Ô Dieu, nous voyons la vision de cette petite minorité, de ce petit groupe, de ce que l'on appelle le fanatisme. Paul a dit en ce jour-là, à la manière qu'on appelle une hérésie ou une folie. C'est là où je veux combattre, Seigneur. Ta parole est vérité, et tu es la parole, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ô Dieu, oins-nous avec ta parole, et que ta parole promise pour ce jour s'accomplisse, que nous puissions laisser ce bâtiment ce matin être des instruments illuminant de Dieu, puissions-nous aller avec l'épée qui brille dans l'air, retranchant tout fardeau et toute autre chose, jusqu'à ce que nous ramenions les gens à Christ, et que nous amenions une boisson fraîche à notre Seigneur, au lieu des vieux credos stagnants. Que les gens puissent boire de la fontaine, un bon breuvage frais de la bénédiction de Pentecôte, afin que cela bénisse son cœur, et que nous le ramenions parmi nous à nouveau. Accorde-le, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Et pendant que nos têtes sont inclinées, si le pianiste ou l'organiste veut bien aller à l'orgue ou au piano, je veux que nous chantions doucement ceci. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Quand les pécheurs sont plongés sous son flot, pécheurs. Qu'est-ce qu'un pécheur? Un incrédule. Les incrédules sont plongés. L'incrédulité en croit, la parole. Ô ces Juifs, Ils ne voulaient pas croire qu'ils étaient des incroyants. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés, mais Dieu savait qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ils priaient pour un combattant, Dieu leur a donné un bébé, un sauveur. Ils savaient ce dont ils avaient besoin. C'est leur cadeau de Noël. C'est ce que vous avez besoin ce matin. C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Un sauveur pour mon incrédulité. Un sauveur pour votre incrédulité. Pendant que nous chantons, prions pour cela, maintenant dans nos cœurs. Priez sincèrement, s'il vous plaît, vous l'Église. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs, les incrédules, qui sont plongés, n'ont pas un membre d'Église maintenant, sous l'œil. C'est là où les membres d'Église sont plongés. Ils perdent tout âge de culpabilité. Trois fois, et pécheurs, Seigneur Jésus, je prie maintenant que tu nous reçoives. Je me plais ici avec ce groupe, Seigneur. Prends toute mon incrédulité, Seigneur. Éloigne-la de moi. Laisse-moi mourir, Seigneur, comme Samson a crié. Laisse-moi mourir avec ces Philistins. Laisse-moi faire tout ce que je dois faire. Mais, Seigneur, nettoie mon âme. Enlève tout doute. S'il y a quelque chose dans ta parole que je ne crois pas, Seigneur, et s'il y a quelque chose ici que tu as promis que je ne puis voir dans ma propre vie, ayant vu cette parole être confirmée pour cette heure, alors Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi du courage, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai besoin de courage pour retrancher cette chose, pour couper ce mur, car je sais que c'est ton désir. Tu l'as prononcé, il devait en être ainsi en ce jour-là. Comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons ce dernier mouvement, ce dernier signe qui fut donné à l'Église. Ce fut le dernier signe que la semence naturelle d'Abraham a vu avant que le feu ne brûle le monde des gentils. Et ainsi, c'est le dernier signe que la semence royale verra avant que le feu brûle le monde des gentils. Toi, Seigneur, qu'il voit que c'est exactement la raison pour laquelle Jésus devait naître à Bethléem. C'est ta parole, c'est la promesse. Bénis-les maintenant, Père. Je te les donne comme des trophées. Et que nous tous, Seigneur, puissions tirer l'épée aujourd'hui et marcher de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Croyez-vous que c'est la vérité? Alors levez vos mains si vous croyez que c'est la vérité. Merci, ami. Regardez, je suppose que la bande est finie. Voyez-vous, en parlant comme ceci, je ne parle pas seulement à vous. Cette bande va autour du monde. Et des hommes et des femmes autour du monde entier entendent cela. Nous allons de nation en nation. Ils s'assoient là, avec de petites tiges dans leurs oreilles. Et ceci est annoncé à des centaines et des centaines de gens autour du monde. Et regardez, ce n'est pas vous, femmes. Je ne veux pas vous blesser quand je vous dis ces choses. Mais si votre pasteur ne vous dit pas cela, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'a pas l'audace de le faire. Il se cache derrière une organisation où il est comme Lot, assis là, avant que le feu ne tombe. Il n'avait tout simplement pas ce que cela prenait pour se tenir là. La Bible dit, les péchés de Sodome vexaient son âme juste quotidiennement. Son âme connaissait mieux, mais il n'avait pas ce que cela prenait pour se tenir là et le condamner. Et un pasteur qui ne veut pas dire à une femme que c'est faux de se couper les cheveux, il y a quelque chose de faux avec cet homme, ou au sujet de porter ses vêtements. Et vous, hommes, qui laissez vos femmes faire de telles choses comme celle-là, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Conduisez votre femme dans la ville comme une femme prostituée, et ensuite frappez un homme sur la bouche parce qu'il l'insulte. Vous êtes celui qui a besoin d'être frappé sur la bouche, c'est vrai. Et Dieu le fera un jour aussi, c'est vrai. Nous devons retourner à cette parole. Pas seulement cela, cela c'est juste une petite chose. Mais comment allez-vous atteindre les grandes choses si vous refusez les petites? Comment pouvez-vous apprendre l'algèbre si vous ne savez pas votre ABC? Vous ne pouvez même pas compter jusqu'à 10, alors comment allez-vous apprendre les mathématiques alors? Vous devez commencer au commencement. Vous essayez d'atteindre le sommet, mais revenez ici en bas. Et commencez comme il faut. C'est le temps de le faire, maintenant, à Noël. C'était la naissance de Christ. Laissez Christ naître en vous. Et qu'est-ce que Christ? Christ est la parole. Combien savent cela? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quelqu'un a dit l'autre jour, « Frère Branham, les gens savent que vous haïssez les femmes. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est de l'amour véritable pour mes sœurs. Certains hommes se tourneront et penseront que vous êtes belles avec vos yeux rouges et vos yeux verts et vos cheveux coupés. Ces hommes ont une opinion différente de la mienne. Moi, j'aime cette âme qui est en vous. Elle doit rencontrer Dieu. C'est ce que je... J'aime ma sœur pour l'éternité. Pas une petite créature de sexe ici sur la terre qui... Combien ont déjà lu le déclin de la chute de Rome? Certainement. Regardez cela, la même chose que l'on fait. L'attrait sexuel, la genèse dans la condition qu'elle est, c'est exactement dans la condition que nous sommes maintenant. Les problèmes raciaux et la genèse qui prend la relève est l'homme, est le sexe. C'est de la manière que l'Empire romain est tombé il y a 1800 ans passés. Et le voici qui revient parmi nous à nouveau, parmi les gentils. Est-ce que vous le voyez? La confusion parmi les religions et les choses. Oh, dans quelle heure vivons-nous? Une sœur donne un message, note de l'éditeur. Amen. Le Seigneur Dieu a parlé, je le crois. Maintenant, levons-nous. Quand il parle, il est temps que nous lui donnions de la révérence et du respect. Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je suis plus déterminé que je ne l'ai jamais été de me tenir avec sa parole et de faire mon possible avec l'aide de Dieu de me frayer un chemin jusqu'à Bethléem à nouveau, là où ceux qui demeurent à Bethléem peuvent voir à cette fontaine. Combien veulent m'accompagner avec vos mains levées? Dites, je promets à Dieu que je le ferai. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, inclinez vos têtes juste un moment. Et je crois qu'un frère ici, frère Jeffries, venez ici. Il va congédier l'assemblée pendant que nos têtes sont inclinées en prière, si vous le voulez bien.